considéré par certains comme un génie des temps modernes.
Et par d'autres comme un des plus grands escrocs que le web francophone a enfanté depuis sa création.
Adulé autant que détesté, il a enfin décidé de sortir du silence.
Gourou de secte, génie marketing, provocateur insolent.
Non, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'Andrew Tate. Et qu'il soit critiqué pour son physique ou pour ses idées, n'en déplaise à certains, sa présence ne laisse jamais indifférent.
Depuis quelque temps, il se fait rare en interview.
Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur, et je dirais même le privilège, de l'accueillir sur le podcast Better Call Lyoto.
La France entière attendait ce moment avec impatience.
Jean-Marie Corda, bienvenue sur l'émission.
Better Call Lyoto.
Salut les mecs, ben, merci pour l'accueil.
On a tout donné là.
Magnifique en tout cas, hein. Ah ouais, je vous entends, je vous vois, les deux caméras, le cigare, le setup de fou, hein, posé sur une table dans le tiers-monde, avec les deux micros, les ordi et le bordel, enfin incroyable.
Ouais, mais je suis content que tu chambres un peu sur le setup, parce que j'allais aussi parler du tien, qui est incroyable. C'est magnifiquement cadré, et puis on a eu de superbes images, j'avoue que là, t'as sorti le grand jeu aussi.
Ah non, mais rien du tout. En fait, j'ai... un micro-cravate posé sur une baguette chinoise, une sorte de ring light, tu sais, les trucs de poufias à 10 balles, et mon iPhone. Maintenant, l'iPhone peut se connecter sur l'ordi et tu peux faire webcam avec ça. Et quand tu bouges, je sais pas si tu vois, ça te suit.
Ouais, ça bouge. Ouais.
Donc, en mode artiste de rue, il faut le moins de matos possible pour faire le plus de thunes possible. Il y a un ratio à respecter.
Et j'ai pas suivi la transition. T'es passé en lunettes de ski. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
C'est des lunettes juste pour me protéger de la lumière. C'est j'ai des yeux clairs, okay. Et j'ai un peu mal aux yeux, quoi, donc je me protège. Mais je peux les enlever à un moment, passer sur les lunettes jaunes.
Non, mais c'est parce que t'avais des aviators, non, avant, il me semble. C'est pour ça que je pose la question.
Ah,
ça,
peut-être.
Ouais, ah là, ça vous plaît, on le reconnaît.
Ah mais là, c'est bon, là, t'es touriste sexuel à Bali, ça fait plaisir.
Non, non, je ne suis plus touriste sexuel à Bali parce que j'ai été très déçu par l'offre. C'est-à-dire que les putes à Bali ne savent pas travailler. Je vous ai envoyé des contacts. Vous avez testé? Vous avez vu le niveau? C'est lamentable. Alors, les masseuses érotiques, c'est dans le Flame. Il y a un établissement qui s'appelle le Flame, ouais. Qui est pas
le
mal
Flame,
du tout.
Exactement.
Ok, mais très difficile de se faire sucer et elles ne baissent pas. Les putes, elles sont certes elles baissent à Bali, mais elles sont à chier. Elles sont vraiment pas terribles. Donc je n'irai plus dans ce pays dont l'architecture est médiocre et dont l'offre de prostitution est très très décevante.
Bon, et comparé à la Thaïlande par exemple.
Alors la Thaïlande est bien au-dessus, ça reste quand même une référence mondiale de la prostitution, mais j'aime pas les Thaïlandais. Le peuple en fait. Il me déplaît, un peuple d'hypocrites et de menteurs. Il sourit, tu vois, en te baisant. Ils te respectent pas profondément, les Thaïlandais. Les mecs, leur activité principale, c'est le tourisme. Je veux dire, 90% du PIB du pays, c'est le tourisme. Ils sont pas foutus d'aligner deux mots d'anglais. Et les putes thaï, elles sont serrées. Et même celles qui sont pas petites, hein, même les grosses, même les moches, ce que tu veux, elles sont toujours trop serrées. Ça finit en chialant dans la salle de bain. C'est bon, ça m'a cassé les couilles. Donc je retourne plus en Thaïlande non plus.
Bon, ok, vacciné. Bon, on a prévu de parler de deux, trois petits sujets.
Et alors, attends, juste avant de faire la transition, désolé, je te coupe. Est-ce que tu as entendu parler d'un service exceptionnel qu'un ami nous a raconté hier et qui est un service qui se fait à Bangkok avec un système de matelas pneumatique où tu serais mis dessus avec des jets d'eau partout et un système de massage. Ouais. C'est ça, c'est Chris qui nous a parlé de ça hier et c'était assez marrant et ça, je crois que ça coûtait... autour de 60 euros, et il nous a dit que c'était un service qui était incroyable, qui était uniquement en Thaïlande et qui n'était pas possible à Bali. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un matelas gonflable, ouais. Tu es dessus, tu as l'impression d'être sur une espèce de bateau, on te met du nourou...
Ouais, du nourou, le gel comestible, là, c'est ce qu'il nous a raconté, que c'était assez... C'était assez sympa que ce
trou passe
nulle part.
Oh ouais, complet, c'est un massage érotique, et apparemment ça va loin, genre elle peut te faire du toucher prostatique, elle peut... Ouais, ça va loin, ça va loin.
Donc
ça
en fait,
dit rien du tout.
T'as un matelas pneumatique, une pute,
ouais.
Et tout un système de G, genre inspecteur gadget autour qui t'envoie de la flotte,
ouais.
Bizarrement.
C'est ça, avec du gel comestible. Et apparemment, la fille va très loin. C'est-à-dire que c'est ça, elle peut te faire du massage prostatique, elle peut tout faire. Et c'est quelque chose qui est très plaisant, okay, d'après ce qu'il nous a raconté.
Mais moi, j'ai toujours du mal, moi, à remplacer le service d'une professionnelle par de la technologie. C'est pas trop mon truc. Je pense que remplacer le service humain par de l'intelligence artificielle ou des robots, c'est bon pour les esclaves. J'aspire à une vie de luxe et du coup, je préfère avoir des vraies femmes. Je préfère une jolie fille qui connaît son métier plutôt qu'aller me bricoler des jets d'eau dans le cul.
Ok. Et justement, en parlant de l'IA, la 30 secondes, l'IA, les poupées gonflables, tout ça, est-ce que bientôt on va se trouver, tous les hommes vont pouvoir se trouver une copine, une fausse copine en intelligence artificielle? Est-ce que tu as vu circuler ce genre de news et ce genre d'anticipation?
Ouais. Alors, je sais pas si tu as suivi, mais je suis dans le business OnlyFans depuis un certain temps. Je suis aujourd'hui le créateur du plus gros réseau francophone d'agences OnlyFans. Et évidemment, c'est un sujet assez chaud, à savoir l'intelligence artificielle dans le business OnlyFans. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est le business OnlyFans, c'est un business de relations virtuelles dans lequel on appelle les simps la clientèle. Donc, les clients payent pour échanger des messages privés avec des nanas qui ont un profil sur OnlyFans. Et évidemment, une des difficultés dans ce métier, c'est de dealer avec les ressources humaines que sont les modèles, c'est des femmes, elles sont instables, surtout des modèles, c'est des femmes souvent désirables, donc doublement instables, parce qu'elles sont sollicitées de toutes parts par plein d'opportunités. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de remplacer les femmes par un robot. Donc c'est un robot qui va générer des images, qui va générer des vidéos, ou qui irait même générer du chatting, qui irait parler à la place de nana, à l'écrit ou maintenant à l'oral. Ça y est, on y est. On a des robots qui te parlent avec la voix de la nana. Et ça ne marche pas encore. Enfin, il y a déjà des sous qui ont été générés dessus, mais ça n'a pas été standardisé, il y a des limites, je vais te dire ce que c'est. En gros, la clientèle arrive quand même à sentir qu'il y a un robot au bout du fil, et ça fait bander personne de parler à un robot. En gros, quoi.
Pour l'instant.
L'idée, c'est que tu peux assister le travail par intelligence artificielle. Ça marche. Donc, ce qui a généré de l'argent pour l'instant, c'est quoi? C'est une vraie modèle, une vraie nana qui, assistée d'une intelligence artificielle, génère des photos basées sur ses vraies photos, génère des vidéos basées sur ses vraies vidéos ou génère de la voix avec sa vraie voix et avec sa vraie personnalité. C'est-à-dire qu'on va nourrir l'intelligence artificielle avec des données issu de la modèle, sa voix, son apparence, sa personnalité, etc. Et l'intelligence artificielle va recopier ça dans une certaine mesure. Mais tout part d'une vraie nana. Ce qui fait deux choses. Déjà, le simp, ou le client, il sait que derrière, il y a une vraie... Enfin, il croit que derrière, il y a une vraie nana, parce qu'elle existe vraiment. Donc, ça pose l'autorité, ça aide à la crédibilité de l'histoire, en fait, et du scénario. Et en plus de ça... il y a une vraie nana sur laquelle se baser pour que l'intelligence artificielle soit pas en roue libre. Donc, on peut faire comme ça de l'assistance en intelligence artificielle et dans tous les corps de métier, dans toutes les industries. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle fait. Quand elle aide à générer du design, bah, c'est un outil qui vient se rajouter comme une couche par-dessus Photoshop ou quelque chose, tu vois, ou par-dessus des images existantes. Ça part pas de rien. Il faut nourrir l'intelligence artificielle à chaque fois. Et on peut pas débarquer juste avec l'intelligence artificielle sans femme et générer des sous, pas encore. Et surtout pour le chatting, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que la nana, si elle est toute seule pour faire un monologue excitant pour le mec, pourquoi pas? Mais quand il faut aller assez loin pour faire payer le gars, là, on a besoin de vrai cerveau. On a besoin de mecs qui soient bons en psychologie. Le chatting est un vrai métier, c'est comme le closing. Je te donne un autre exemple. Tu vois les mecs qui font du démarchage téléphonique? Bon, ben, ces types-là, théoriquement... On pourrait remplacer les gens qui font du démarchage téléphonique par de l'intelligence artificielle. On le fait pas encore. Parce qu'on n'en est pas là, quoi. Et le jour où on y arrivera, peut-être qu'on le fera, mais il y aura sans doute une évolution du marché et les clients deviendront plus sensibles à ce genre de trucs et ils laisseront pas passer. Ils achèteront pas directement à une intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y aura juste des évolutions de marché dans lesquelles on continuera d'utiliser, l'intelligence artificielle comme une surcouche, comme un outil.
Ok, mais là pour l'instant, par exemple, tu parles de surtout de OnlyFans. J'imagine que dans le porno, il y a des trucs qui arrivent de plus en plus. C'est les animés porno. Alors je sais pas comment ça s'organise, mais avec tout le contenu qu'il y a porno sur les sites, est-ce qu'il y aurait pas déjà moyen avec l'intelligence artificielle qu'il y ait des films qui reproduisent plein de choses par rapport à toutes les données qu'il y a partout?
On a des petites vidéos, mais pas des films entiers. Ça, c'est difficile. Il y a des images, ça, il y a beaucoup. Donc, ça fonctionne. Faire du porno par intelligence artificielle de manière statique, donc une image qui ne bouge pas, et des films qui bougent ou des films d'animation en porno, il commence à y avoir des choses, mais ça demande du travail, c'est difficile à générer, ça coûte quelque chose. Enfin, c'est pas gratuit. Pour l'instant, on n'a pas encore remplacé l'animation 3D. Il y a de l'animation en 3D en porno. Et pareil, ça va juste devenir un tool qui va se rajouter aux outils de génération d'animation 3D. Je peux te donner d'autres exemples. Je suis le développeur de FrogTech. Je sais pas si tu connais FrogTech. C'est une technologie de page builder. C'est une plateforme qui te permet gratuitement de développer un site. Ok, tu connais. Bon, bah sur FrogTech, on va développer un tool d'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est que au lieu du tool habituel de générateur de texte, eh bien, il y aura un générateur de texte intelligence artificielle. Tu donnes ta thématique, tu dis par exemple, je veux un titre accrocheur sur tel sujet. Et le tool connecté à ChatGPT-4 va te générer un titre accrocheur où tu dis, je veux un chapitre pour argumenter dans ce sens ou pour prouver tel point ou pour vendre tel truc. Et ça va te générer le texte. Après, si le texte n'est pas tout à fait adapté, tu dis, je veux un truc plus incisif. Je veux un texte plus long, je veux un texte plus court. Et l'intelligence artificielle va modifier. Bah, la même chose dans des programmes de montage vidéo, dans des programmes d'animation 3D, dans des programmes de chatting. À chaque fois, l'intelligence artificielle est une surcouche qui va permettre de remplacer l'édition manuelle par une édition semi-automatisée.
Ok, bon. Est-ce que t'as une question sur ça? Non. On a démarré pas mal sur le... C'était pas prévu, j'avais pas prévu la question de l'AI dans le porno, mais quand on en a parlé... Bon, on a prévu quelques petits sujets intéressants, on en a parlé en privé, notamment évidemment sur les relations, les changements un peu de comment tu vois les relations toi aujourd'hui, surtout que tu vas bientôt être papa, je spoile rien.
Ouais, c'est vrai, dit, ouais. C'est...
On va en parler, mais ma femme a fait une fausse couche hier.
Ah merde, ah ben désolé.
Apparemment ça arrive souvent, surtout pendant les premières grossesses, mais... Ouais, c'est un peu un coup dur, je t'avoue. C'est pas agréable.
Et oui, parce que ça fait un moment que t'essaies d'avoir des enfants.
Elle a quel âge, ta femme?
Je le dis pas. Je donne aucune info sur elle.
Ok, bon, est-ce que... Bon, tu t'es pas présenté, mais les gens te connaissent déjà un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais sur toi aujourd'hui, en 2023? Jean-Marie qui a fait tellement de choses dans le passé, qui a traversé... qui a traversé le business en ligne, qui a traversé le porno, le coaching sexuel, qui a traversé les cryptos, tu parlais des page builders, là, t'as fait des choses même dans les NFT, je crois, dans le Web3 qu'on appelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis de toi?
C'est toujours compliqué cette question. On va dire que je suis un hyperactif qui aime faire des expériences et qui aime travailler, donc je passe tout mon temps à travailler. Je dois bosser 14 heures par jour depuis plus de 15 ans. Je m'arrête jamais. Pas de week-end, pas de vacances. Ça peut paraître un peu triste et stressant, mais non, en fait, c'est une profonde angoisse. J'ai l'impression que si je m'arrête, je vais crever. Ou je vais perdre mon temps. Enfin, quelque chose de très négatif. Et donc, je suis tout le temps dans l'action et j'ai tout le temps plusieurs activités à la fois. Donc, je me définis en tant qu'homme par mes activités. J'en ai eu plein, plein, plein. J'ai été artiste de rue, acteur porno, j'ai fait de la métapolitique, du développement technologique, de la crypto... Je fais quoi d'autre? Du marketing d'affiliation sur des brokers. Donc, c'est des investissements financiers. Je vends des investissements. Et sans doute plein de trucs que j'oublie. Un peu d'humour sur YouTube. Ouais, je fais du commentaire de documentaire du tiers-monde. Bref, je fais plein de trucs. Ah, et j'ai...
Ouais.
J'ai dit artiste de rue, j'imagine.
Ouais.
Ouais.
Mais en ce moment, pour simplifier les choses, je fais du développement technologique sur FrogTech. Donc, c'est un page builder. Ça permet de faire un site web facilement, gratuitement. En plus de ça, je vends des investissements. Ça veut dire quoi, vendre des investissements? C'est-à-dire que j'investis moi-même sur des solutions d'investissement automatisées, sur des brokers. Je sais pas si tu connais.
Oui. J'avais suivi un petit peu. Enfin, je suis un petit peu de loin ce que tu fais, oui.
C'est l'argent magique. En fait, c'est du jeu en ligne, c'est du gambling, c'est pareil. Au lieu de miser au casino sur une machine, en foutant des pièces et en tirant la manette, là, tu mises sur des traders. Donc, il y a un côté un peu plus smart que juste avoir des trucs qui tournent, des lumières et des pouet-pouettes. Donc, tu mises sur des traders en fonction de si tu as confiance, tu regardes un petit peu le track record du mec, si ça te paraît legit ou pas. Et quand tu trouves des traders où tu dis « Ah putain, lui, il gagne du fric, j'ai confiance », tu poses des sous dessus. En fait, tu poses des sous sur ton compte et ton compte, tu le branches, tu le synchronises sur le trader. Je me suis mis à faire ça il y a 9 mois à peu près et c'est assez passionnant. Tu as les mêmes sensations qu'avec les jeux d'argent, mais honnêtement, c'est moins casse-gueule. C'est-à-dire, il y a moyen de gagner des sous quand tu choisis bien les traders. Donc, je propose des stratégies de trader et je prends des commissions là-dessus. Quand les clients gagnent des sous, je prends une partie des profits. Donc, c'est cool. Et également, je suis sur OnlyFans. Là, c'est plus du business comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire du business adulte. Donc, j'ai été dans le porn pendant 15 ans quand même. Et le porn ne rapporte plus grand-chose. C'est très difficile de faire de l'argent avec du contenu. Le contenu, c'est des photos, des vidéos. Alors, les photos, ça fait des années qu'on fait plus de sous avec. On fait encore un peu de sous avec des vidéos, mais c'est compliqué. Il n'y a plus que les grosses productions, je dirais, qui font vraiment de la thune en créant du contenu vidéo. Les modèles aussi, elles font un peu de sous. Mais les producteurs comme moi, les petits producteurs, bah, ça devient un peu foireux. De toute façon, moi, je m'en foutais. J'utilisais le porno pour distribuer mes produits de coaching sexuel. Donc, même si je faisais peu d'argent avec le porno, je convertissais sur la vente de produits de coaching sexuel. Produits pour bien bander, pour contrôler son éjac. Bon, bref, j'ai arrêté le porno il y a 2 ans parce que ça rapportait plus tant que ça et que c'était chiant et qu'il y avait aussi le risque en fait d'attraper des maladies. Dans le porno, on tourne sans capote. Et bon, je voulais faire des enfants. C'est pas terrible de faire du porno quand t'essayes de faire des enfants. Même si tu tournes avec des tests, c'est pas la garantie que t'attraperas rien, tu vois. Entre le moment où la nana, elle fait le test et le moment où tu tournes, bah, la nana, elle baise avec d'autres partenaires. Donc, il y a des risques. Donc, bref, j'ai arrêté le porno. Et, à la place, je me suis mis à OnlyFans parce que c'est là où il y a de l'argent en ce moment. C'est des relations virtuelles dans lesquelles les nanas sont à domicile. Donc, elles tournent pas avec des acteurs. Généralement, c'est du contenu solo. Elle se caresse toute seule à la maison, elle prend des photos d'elle en lingerie, ce genre de trucs. Et il y a des chatteurs qui discutent avec la clientèle pour simuler une relation. Et les gars, les clients, payent pour du contenu exclusif ou pour des messages, pour avoir la sensation d'avoir une petite copine virtuelle. Alors, ils ont l'espoir de la rencontrer et de la baiser. Enfin, c'est ce qu'ils se disent. Mais en vérité, la plupart de ces gars, honnêtement, sont des lâches. Ils vous... Ouais, mais c'est même pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas rencontrer la vraie nana. Je veux dire, s'ils voulaient vraiment rencontrer des vraies nanas, ils iraient dans la rue. Ou ils iraient rencontrer des vraies nanas. Ils iraient se confronter à la réalité. Mais ils veulent pas ça. Ils veulent cette illusion confortable de se dire « Ouais, c'est ma copine parce qu'elle est sympa avec moi online. » Ouais, elle est sympa avec toi online parce que tu payes, quoi. Mais bon, nous, on est là pour optimiser ce business, prendre de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et il y a de plus en plus de lâches et plus en plus aussi de pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une vraie relation, mais qui veulent un petit peu... la sensation de pas être seul au monde, donc ils se payent des relations virtuelles comme ça. Ça leur donne bah la sensation quoi, c'est un comment on appelle ça, une drogue de substitution. Voilà, c'est pas le vrai produit, c'est la substitution. Mais on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'esclaves. Donc les produits de substitution, il y a un gros marché pour ça, un marché en constante croissance. Donc c'est sale hein, de vendre des produits de substitution, mais ça marche. Et donc j'organise une communauté autour de ça et j'apprends aux gars à optimiser leur marketing pour faire de la thune. C'est assez technique. Donc voilà les activités que j'ai en ce moment.
Est-ce que tu vois une différence entre le OnlyFans et par exemple des sites comme Chatterbait ou je sais pas si tu connais, mais tu vois, c'est du sex cam en stream.
Je bossais sur Chatterbait.
Ok, je savais pas. Et du coup, quelle est la différence
entre... j'ai des modèles Chatterbait, ouais.
Ah, si tu peux nous en dire plus, ça m'intéresse. T'as fait quoi concrètement là-bas?
En gros,
une room.
Chatterbait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de webcam. Il y en a plusieurs. T'as Jaspine, t'as MyFreeCam. Enfin bon, il y a des gros sites comme ça de webcam qui fonctionnent toujours, mais on n'est plus à la grosse époque de la webcam. Il y a une époque en fait où ces gros sites généraient des sommes pas possibles et que n'importe qui montait des studios webcam faisait pareil, des grosses sommes. Aujourd'hui, c'est OnlyFans qui a pris le pas sur le business model. C'est ce qui rapporte le plus et ce qui est le plus simple. Parce que la webcam, c'est éreintant. Les nanas qui font de la webcam, faut comprendre qu'elles passent parfois 6 heures par jour, 5 jours par semaine sur la webcam. Enfin, je sais pas si t'es un petit peu impliqué dans ce business, mais c'est très difficile comme business.
Non, non, mais à l'époque où je regardais...
T'en as fait?
J'ai fait un loisir avec des copines, mais vraiment pur amateur. Et déjà, je trouvais ça difficile.
Okay.
Je trouvais ça très difficile. Et c'est vrai qu'à cette période...
Donc, t'étais acteur?
Ouais, avec une copine. J'ai essayé tout seul. Évidemment, ça marchait très peu parce que majoritairement, c'était des hommes qui étaient intéressés par moi. Et je me suis très vite rendu compte que... Mais pour percer là-dedans, c'est un vrai boulot, en fait. C'est comme tu as dit, il faut rester des heures, faut vraiment être régulier, etc. Et suite à ça, quand j'avais des copines, j'ai essayé de les amener avec moi. Et donc, on a déjà tourné avec des copines. Mais c'est anecdotique, en vrai. J'ai jamais voulu développer un business. Je crois que le max que je me suis fait, c'est 100$ et rien du tout. Mais tu vois, dans cette période-là, j'avais beaucoup observé des filles qui étaient ultra présentes et je me disais... Mais comment elles font? Parce qu'en fait, elles sont en stream tout le temps. En fait, à chaque fois que je me connecte, les meufs, elles sont là en live. Et donc, je me dis, mais bordel, le boulot que ça doit être pour ces meufs-là, je ne sais pas comment elles gèrent.
Alors, ça devient leur vie. C'est-à-dire que, au lieu de pointer la webcam sur leur chambre, la webcam est pointée sur leur salon, sur le sofa. Derrière, tu as la cuisine. Autour, tu as la télé. Ça devient leur putain de life. Et généralement, ces meufs qui sont... connecté genre 12-14 heures par jour, parce que c'est des trucs de malade, c'est vraiment ce que je suis en train de dire, elles sont pas toutes seules. Elles ont un crew, une team. Genre, elles sont trois meufs, il y a deux mecs, et il y a toujours un truc qui se passe, mais il se passe pas grand-chose non plus. Et au lieu de focaliser que sur le sexe, ces nanas-là, elles ont souvent des interactions, c'est-à-dire elles font des jeux entre elles ou des jeux avec l'audience. Et elles font participer l'audience aussi aux jeux qui sont entre elles. Donc, en fonction de qui va mettre un type ou qui va poser un petit jeton, elles vont faire tel ou tel truc. Et elles vont limite s'amuser. Ça va pas être la performance physique, la performance sexuelle à tout bout de champ, des éjacs à tout bout de champ. Il faut sortir de ce truc-là pour vraiment être online tout le temps. Et t'as des meufs aussi qui font que usiner. C'est-à-dire qu'ils passent vraiment 6 heures par jour à se limer le cul avec un god. Et c'est des nanas comme ça, moi, que j'ai fréquenté en Europe de l'Est. C'est avec ces nanas que je me suis mis à bosser. Donc, j'ai été performeur sur certains shows webcam ou des shows privés qu'elles faisaient. Et j'ai rapidement arrêté parce qu'en fait, c'est pas possible, quoi. C'est éreintant. Ouais. Déjà, tourner un porno pour un mec, c'est difficile. Et le setup d'un porno, que tu comprennes, il faut venir avec tout le matos quand t'es producteur comme moi. Donc, t'arrives avec des grosses valises remplies de matériel, quoi. T'organises un peu le studio, ça prend une heure. Tu poses le matos pendant que la nana se fait maquiller. Ensuite, je dis une heure, je suis brave, plutôt une heure et demie, deux heures. Et c'est pas poser le matos, c'est le maquillage de la nana. En fait, la nana est en retard, plus il faut la maquiller.
Ok, mais c'est quoi? C'est 3, 4 caméras, les lights, les micros. Rapidement, le matos, c'est quoi que tu mets?
Pas du tout. Moi, j'avais un matos hyper léger. Au début, j'étais sur du deux caméras, ce qui veut dire deux caméramans. J'ai arrêté. Je suis passé en mode une caméra, beaucoup plus simple, mais une caméra très bien formée. C'est-à-dire que ma caméraman était super talentueuse. Je l'avais briefée de fou, tu vois. J'ai bossé avec elle pendant des années. Mais une bonne caméraman. Et le matos, c'était c'est des diffuseurs de lumière.
Ouais.
C'est des grosses boxes blanches avec de la lumière
qui
se plient dans les bagages. Ok, cool. Comment ça s'appelle, light diffuser? Je sais même plus.
Ouais.
On peut ça les light, nous. Les trépieds avec des
Elles étaient réglables, les tiennes? Tu pouvais gérer les Calvin?
Ouais.
Ouais, voilà. Nous, elles sont fixes parce que c'est...
Ouais, tu règles la couleur et tu règles l'intensité. Donc, bref, t'as une light devant et deux sur les côtés. Et souvent, une petite lumière d'appoint directement sur la caméra. Parce que dans le porno, tu vas shooter des petits angles qui sont souvent dans l'ombre. Genre sur un doggy style, tu vas shooter en dessous. Et le cul du modèle, c'est-à-dire moi, crée des ombres sur la nana, et tu veux pas ça. Donc tu veux une lumière qui vienne dessous, quoi. Bon, bref, t'as de la lumière, t'as le micro qui est posé sur la caméra, et t'as surtout du maquillage, des costumes, et des fois un tout petit peu de décor ou des accessoires spécifiques suivant le scénario. Et tout doit tenir dans deux gros bagages. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je me démerdais dans des chambres d'hôtel. Et l'idée, c'est qu'il y a deux heures de setup, maquillage à meuf, plus organiser le setup du matériel et organiser un peu le studio, dans quel angle tu vas tourner dans la chambre d'hôtel. Puis après, tu as deux heures, on va dire, de tournage pour les scènes de comédie que je tournais avant. Puis après, une heure et demie de tournage de cul. Et le tournage de cul, c'est un peu le moment où tu te relaxes. Parce que tout ce que tu fais avant est assez stressant. C'est très difficile, en fait, de tourner la comédie avec une actrice parce qu'elles savent pas jouer la comédie. Et c'est assez technique de jouer à la comédie, en fait. Il y a plein d'angles de caméra. C'est plus difficile que de shooter du porn. Et ensuite, quand tu shootes le porn, bah, en fait, tu te laisses aller, il suffit de baiser la meuf, c'est pas trop compliqué. À moins que tu sois sur un empoté qui déteste le sexe et qui sache pas prendre ses positions. Mais généralement, le sexe, pour les nanas qui font du porn, c'est le moment le plus facile. Et c'est le moment où moi, en tant qu'acteur, je m'amusais le plus. Donc, on shootait le porn pour se soulager, et c'était terminé. Mais la webcam, c'est pas ça. La webcam, t'es là pendant 4, 5, 6 heures à devoir limer la meuf, ou alors être à côté, attendre que quelqu'un paye pour que tu te fasses sucer, paye pour que tu la pénètres en vaginal, ou que tu la pénètres en anal, ou que tu fasses un truc.
Et ouais, parce que le concept de la cam, c'est vraiment... Moi, je me souviens, c'est tu mets des bottes qui te donnent une action, et une fois que tu as atteint le nombre de jetons qui est nécessaire pour faire l'action, tu fais l'action. Donc, admettons... un blowjob, c'est 100 jetons. Tu le fais pas tant que t'as pas eu les 100 jetons des gars, non? C'est ça, grosso modo.
C'est ça. Et en attendant, il faut animer, un peu comme dans un spectacle de rue. Il faut collecter de l'audience, les chauffer, leur promettre que, et les pousser à mettre des jetons pour que t'arrives jusqu'au moment où, ah, génial, tédédé, on a eu les 100 jetons, il y a le petit bruit, le machin, et pff, enfin, quoi, j'ai encaissé de la thune, je me fais sucer, tout va bien. Mais faire ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, c'est chaud, quoi. Ça, c'est vraiment chaud. Physiquement, il y a un moment, autant le porno, c'est pas à la portée de tout le monde, ces techniques. Enfin, physiquement, il y a une performance, mais la webcam, c'est l'enfer. Ça te dégoûte du sexe. Et les nanas qui font de la webcam pendant des années, à force de se mettre des vibros sur le clit, ne ressentent plus rien. Donc, toutes ces meufs, les webcam modèles, qui ont l'air très jolies sur les écrans, c'était mes pires amantes. T'as l'impression de baiser un bout de viande morte qui ne ressent que dalle.
Dépression, ouais.
On rappelle, les meufs, elles se foutent un vibro sur le clit ou elles se liment le cul 6 heures par jour pendant des années. Derrière, t'arrives, tu lui fais ce que tu veux, la meuf. Attends, ouais. Elle queen, elle joue la comédie pour la caméra. Donc, la clientèle y croit. Mais moi, qui suis habitué, je voyais bien que elle en avait rien à foutre. Hein. Toutes ces meufs de webcam, là, elles ressentent rien. Et sont fracassés. Et sur OnlyFans, t'as pas ça?
Et attends, mais justement, en termes d'argent fait sur les streams, ça peut faire beaucoup pour les filles qui font ça tout le temps.
Ça dépend. J'avais bossé avec Purple Beach, qui était une des nanas qui réussissait le mieux en Europe de l'Est, et elle faisait 20 000 dollars par mois. Et elle trouvait ça énorme, et elle en tirait une forme d'arrogance assez crasseuse. Hein. Genre, elle me parlait à peine. Ce qui est marrant, c'est que quand elle m'avait rencontré, cette nana à Purple Beach, elle gagnait plus que moi. Moi, j'étais à 15K par mois, elle était à 20K. Et je voyais bien que son business model était cool, mais qu'elle était au bout de son truc. C'est-à-dire, elle streamait pas 6 heures, elle streamait 8 heures par jour. Vraiment, elle streamait, mais à bloc.
Fonctionnaire du
hardcore, tu vois, elle faisait du gaping anal. Donc, vraiment, son truc, c'était de se dilater l'anus 8 heures par jour. C'est pas le plus simple. Tu vois, elle faisait pas du teasing, elle montrait pas son épaule, elle faisait pas des trucs easy. Non, non. Elle s'enfonçait des gros gouttes dans le cul 8 heures par jour. Et certes, elle faisait 20K par mois. Je lui avais parlé de marketing en lui disant, écoute, on peut faire autre chose, on peut faire mieux, je peux t'aider à développer ton site. Tu peux aussi vendre d'autres produits, du produit de coaching sexuel, ça marche bien. Enfin, j'avais développé le machin. J'avais pris un peu plus d'une heure pour l'emmener au resto après qu'on ait bossé ensemble. J'avais fait bosser sur une de mes productions. Et je pense qu'avec elle, avec son audience, il y aurait vraiment eu moyen de faire à bloc du pognon. Elle avait l'air réceptive pendant le rendez-vous, elle n'en a jamais rien fait, quoi. Elle a continué sur le même business model pendant 2-3 ans, et là, elle est toujours sur le même truc qui ne fait que régresser. Donc, elle gagne de moins en moins en se faisant de plus en plus chier. Enfin, quoique, maintenant, elle arrive aussi sur OnlyFans et tout ça, mais j'expliquerai juste pourquoi après, mais ça marche pas, les actrices porno sur OnlyFans. Et au lieu de partir sur un business model intelligent ou de se mettre au marketing comme je lui proposais, ben, elle a juste régressé. Et pendant ce temps, moi, j'ai triplé mes revenus. Et donc, j'avais eu raison. C'est-à-dire que ma vision des choses était la bonne. Il y a un moment, pour scaler, tu peux pas bosser 18 heures par jour au lieu de 8 heures. Tu es obligé de changer de business model. Et la raison pour laquelle les actrices porno sur OnlyFans, ça marche pas, c'est que sur OnlyFans, on vend de l'intimité, on vend de la relation. Et souvent, la manière dont ça commence, c'est qu'en chatting, le client... il va acheter un contenu exclusif. Un contenu exclusif, c'est quoi ? C'est un contenu sur lequel la nana montre quelque chose que généralement, elle ne montre pas en public. Imaginons que la nana sur Instagram, elle soit très jolie, mais elle soit toujours en maillot de bain ou en sous-vêtements. OK ? Et ben là, sur OnlyFans, dans le chatting en privé, elle va t'envoyer peut-être une photo où elle montre un peu son téton. Maintenant, tu prends une nana qui carte son anus depuis des années sur Internet, elle va te montrer quoi de plus en chatting privé? Elle peut faire quoi? Elle peut pas surenchérir.
La relation personnalisée, quoi. Je veux dire, le message personnalisé ou l'impression de message personnalisé, ça va être ça.
Ouais. Et c'est ça. Ou alors, ça va être des shows privés. Mais ça reste assez difficile à vendre quand il n'y a pas l'accroche. Le contenu exclusif est très souvent l'accroche pour ça. Et la relation personnalisée avec une nana qui est très connue, c'est pas très crédible. Faut pas prendre les simps pour des cons.
Ils sont
certes lâches et pauvres, mais ils sont pas plus idiots que des autres. Et les mecs qui payent pour du porn, c'est un peu des consommateurs élites du porn, ils connaissent le milieu. Donc quand ils voient une nana qui a fait des milliards de vues, Purple Beach par exemple, c'est ça, tu vois, c'est plusieurs milliards de vues. Elle est très connue, hein. Pendant plusieurs années, c'était la number one sur Chatterbait. Donc une nana qui a plusieurs milliards de vues, est-ce que c'est vraiment elle qui est dans le chatting en train de te parler? Tu vois, pareil, ça casse le délire. Alors qu'une meuf sur Instagram qui a 2000 followers, mais sur le OnlyFans, vous êtes peut-être qu'une centaine. Bah ouais, tu peux y croire qu'elle te parle. Même si c'est pas elle, tu vois, au moins tu peux un peu te mentir à toi-même et dire si, si, c'est elle qui me parle. Une Purple Beach...
C'est elle, Purple Beach, là?
Ah ouais, mais c'est elle.
C'est ce qu'il nous disait, on a eu un podcast avec Charlie qui est dans le OnlyFans, en privé, avec sa copine, et il nous disait que ce qui était vraiment privilégié, c'était la relation, justement, et cette approche intimiste avec les gens. Et donc...
certaines des meufs qui ont fait la plus de thunes ne se montrent même pas toutes nues. C'est de la relation qu'on vend, c'est pas du contenu. On n'est plus dans du business de content, on est de relation. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait le même business.
Et alors, est-ce que en création de contenu OnlyFans, est-ce que ça vend mieux de faire ça, par exemple, au téléphone qu'avec des caméras un peu plus pro?
Ouais, oui.
Est-ce qu'il y a cette dimension-là? Est-ce que toi, tu le perçois avec probablement les filles que tu manages? Est-ce qu'elles vendent plus en faisant du contenu vraiment un peu, tu vois...
Amateur, quoi.
Ouais, amateur.
Ouais. Alors, oui, mais on se pose même pas la question. Parce que la méthode d'acquisition principale pour OnlyFans, c'est TikTok. Et TikTok, par son algorithme, force les utilisatrices à poster ce qu'on appelle du contenu original. Le contenu original, c'est du contenu qui a été filmé avec le téléphone qui va servir à publier. C'est-à-dire, imagine que la meuf, elle se filme avec une vraie caméra. Et qu'ensuite, elle fait un montage et qu'elle balance ça sur TikTok. TikTok ne va pas mettre en avant la vidéo. L'algorithme va shadowban la vidéo en mode, c'est pas du contenu original, c'est du contenu monté. TikTok veut que les gens filment avec le téléphone. En fait, au-delà, ils veulent qu'ils filment sur le téléphone avec l'application TikTok et publient avec la même application. Et donc, la nana, elle est habituée à faire tout son contenu déjà sur le téléphone. Du coup, quand elle fait son contenu plus chaud pour OnlyFans, elle le fait toujours avec son téléphone. Il y a une forme de cohérence. Et les téléphones aujourd'hui, de toute façon, ils filment tellement bien. C'est genre vrai. L'iPhone 14, t'as tellement de la qualité d'image que si t'éclaires correctement ta scène, ça sert à rien de remplacer ça par une caméra. Ça tue le business des caméras, d'ailleurs. Les iPhones filment. Là, je me file à l'iPhone en ce moment.
T'avais une question?
Non.
Non, moi, je me posais la question, tu vois, par rapport à tout ça. Tu as transité entre, finalement, si on prend un peu une certaine forme de chronologie, il y a le porno, il y a la cam, il y a la stream, cam stream. Maintenant, tu es plus dans le business OnlyFans. Tu vois bien que le marché bouge, les attentes bougent. Tu t'adaptes un petit peu comme ça. Tu as toujours été dans cette industrie du sexe. Est-ce que tu disais bien que c'est pour les gens qui sont pas capables d'avoir des relations et c'est une forme de donner des miettes, quoi, tu vois. Est-ce que ça te dérange pas? Alors je sais que toi t'es très business, t'en as déjà parlé, tu vois. T'es, à un moment donné, soit tu fais du business, soit tu fais de la morale. À quel moment ça se chevauche dans ta tête de te dire je ne suis pas dans un business qui va améliorer la condition des hommes dans le futur ou pas?
Je mets un ordre de priorité. La priorité, ça va être ma famille. Donc, évidemment, je vais penser à moi-même et aux membres de ma famille, leur apporter de la sécurité, du confort. C'est pour ça que je génère de l'argent, c'est pour ça que je travaille comme un malade aussi. Et ensuite, évidemment, je suis pas un sagouin, c'est-à-dire j'ai pas envie de verser de l'huile de vidange usagée sur la route devant chez moi, de détruire mon environnement, d'amener du chaos, d'amener du danger, d'amener de la criminalité dans mon environnement proche. J'ai pas non plus envie de détruire la civilisation et de remplir ce monde de lâches, de fous, de psychopathes dangereux. Bon, Et j'ai bien conscience qu'il y a certains business qui sont générateurs de poison. J'ai fait du porno pendant 15 ans, je suis lucide sur ce qu'est le porno. Le porno, c'est un média toxique. Le porno, c'est un poison. Un poison pour ceux qui le produisent, parce qu'on prend des risques.
Au moins, tu vendais du coaching sexuel derrière, donc il y avait une espèce de rédemption sur, on va dire, améliorer, donner une skills, donner une compétence derrière. Donc, il y avait ça quand tu faisais le porno. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui te permettait de te rassurer. Mais...
Je ne cherche pas à prouver qui que ce soit que je suis un être moral. J'essaye pas de faire ça. Je suis pas un de ces fils de pute qui débarque avec un petit badge de vertu. Genre, oh, je suis de gauche, j'ai de la vertu, je suis quelqu'un de bien. Non, mais j'ai surtout eu une passion. Je suis un obsédé sexuel et j'ai réussi à monétiser mon obsession. J'ai réussi à vivre de mes rêves. C'est tout. J'ai fait ce que je voulais faire. Et je l'ai fait assez bien vu que je suis devenu numéro un sur les acteurs français sur Xvideo pendant plusieurs années et que j'ai fait, je sais plus, je crois 300 millions de vues sur Xvideo. Bref, en tout, toute plateforme confondue, j'ai dû faire 1 milliard de vues avec mes vidéos. Donc autant sur YouTube, j'ai jamais percé parce que l'algorithme joue contre moi. J'ai une façon de m'exprimer qui est pas du tout en accord avec la bien-pensance. Mais sur les plateformes porno, il n'y avait pas ça. J'ai eu le succès que je méritais, je dirais, là-dessus. Bon, bref, je prétends pas être moral. Je sais quand je produis quelque chose d'empoisonné ou je sais quand je fais quelque chose de bon pour la santé. Par exemple, j'ai fait du contenu pédagogique, pas que sexuel, sur le time management, sur la productivité, aujourd'hui sur du marketing. C'est de la pédagogie. Ça, c'est de l'amour, c'est plutôt sain. Et je sais quand je fais du divertissement. Le divertissement, il prend plusieurs formes. Et le divertissement, comme tout ce qui est bon, quand il est consommé de manière inconsciente, c'est toxique. Si tu bois une bière de temps en temps, il n'y a pas de souci. Là, tu fumes un cigare, il n'y a pas de souci. Le mec qui fume 2 paquets de clopes ou qui boit 3 bouteilles par jour, bon bah voilà, tu vois, je ne vais pas refaire le match. C'est des choses qui sont évidentes, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Et pour ce qui est du porn, c'est à peu près la même chose. OnlyFans, également, un type qui, dans la vraie vie, il est en couple avec une nana un peu moyenne et il a une vie un peu moyenne et qui s'évade de temps en temps en se donnant l'illusion qu'il a une relation secrète avec une 9 sur 10 qui habite à l'autre bout du monde et qui dépense 50 balles par mois pour ça, en vrai, bah écoute, c'est ça ou un jeu vidéo à 50 balles, tu vois, c'est quoi le pire, c'est quoi le meilleur, est-ce que c'est grave, je sais pas. Tant qu'il y a une modération, ça passe. Le type qui va dépenser de l'argent qu'il a pas, genre 1500 balles alors qu'il gagne 1000 balles par mois, il y a des mecs comme ça. Hein. Il y a des mecs au-delà qui touchent un héritage, qui dépensent des 20, 30K dans du chatting. Je te jure.
Putain, c'est triste.
Et qui après, ils ont plus une thune. Enfin, on l'a vu ça, tu vois, genre, oh mon chéri, pourquoi t'envoies plus de sous ce mois-ci? J'ai tout dépensé, mon héritage est arrivé à sec. On l'a ça. On a des clients comme ça en chatting. Bon, bref, ces mecs-là, oui, bah, ils sont tombés dedans. C'est-à-dire, s'ils étaient tombés pareil dans la drogue ou l'alcool, ils seraient morts. Là, c'est sur OnlyFans, ils sont juste ruinés. Bon, ça fait partie du côté sale de ce business, et c'est sale. Et de manière générale, tous les business, il y a toujours un côté sale quand ça touche à ce genre d'émotion, parce que tu as une partie de la clientèle qui va être déraisonnable. C'est pas un service que tu vas te payer par nécessité. Il y a une nécessité de pas être seul. Mais le substitut ne remplace pas la solitude. L'humain est un être social. Si on est isolé, on en crève, on déprime, on se sent triste, ça le fait pas du tout. Mais, comment dire, c'est pas comme manger ou dormir, tu vois. Aller sur OnlyFans, tu peux très bien vivre sans aller sur OnlyFans. Tu pourrais vivre ta solitude et survivre en vrai. Ou tu pourrais te forcer à force, à en avoir marre de la douleur de la solitude, sortir dehors, aller faire des rencontres dans un club de danse, dans n'importe quelle activité sociale, et voilà, tu vois. Mais non, les gens, ils veulent la facilité, ils veulent pas sortir de chez eux, ils sont isolés, ils sont peureux, ils ont peur, en fait, du rejet, donc ils vont pas tenter de créer des relations avec des nanas. Et ils ont pas les moyens aussi, parce que, imaginons, t'es un smicard, ok? Tu vis dans un gourbi, un appart de merde. Mais tu fais quand même l'effort. Tu vas draguer une meuf. Mais tu l'amènes où, la meuf? Tu peux pas lui payer un resto. Tu peux même pas te le payer à toi-même. Et ensuite, tu la ramènes chez toi. Mais tu vis dans un trou à merde à 1h30 du centre-ville. Tu l'amènes en métro, dans ton trou à merde. Et dans ton trou à merde, tu vis avec un autre coloc. Tu dis à ton coloc de se barrer le temps que t'essayes de la niquer. Mais de toute façon, t'arrives pas à la niquer parce que quand elle débarque dans ta cité pourrie, elle fait demi-tour. Enfin, tu vois, il faut de l'argent pour baiser. Il faut de l'argent pour créer une relation. Une meuf, elle va être intéressée par un mec par rapport à son statut social. Et ça commence par sa thune. D'ailleurs, pour tous les mecs qui sont encore dans la drague, On s'en fout de ce qu'on dit aux meufs. On s'en fout de la manière dont on les aborde. Tout ce qui compte, c'est de quelle position on le fait. Si t'as un Brad Pitt, tu peux aborder les meufs en leur crachant au visage, ça marche quand même. Si t'es une merde, si t'es un type qui a l'air pauvre et con, qui, enfin, tu sais, qui a pas de réputation du tout, t'as beau arriver avec les meilleurs efforts du monde, tu te fais rembarrer avec zéro respect.
Pour quelqu'un qui est dans la moyenne, on va dire, pour quelqu'un qui est dans la moyenne, c'est-à-dire que qui a un petit salaire, qui a pas de coloc, qui a pas de, voilà, qui est pas à 500 km du centre-ville, et qui est un peu timide. Tu penses pas que c'est une bonne chose de casser cette timidité, d'essayer de faire ce travail social, de compétences sociales, pour essayer de s'en sortir dans un premier temps, avant d'essayer de vouloir gagner à tout prix de l'argent?
Oh non, dans un premier temps, il faut gagner de l'argent. Imaginons, ok, le mec, il casse sa timidité, mais il est toujours pauvre.
Donc, on parle pas de quelqu'un de pauvre, on parle de vraiment de salaire moyen.
Non mais salaire moyen, c'est la pauvreté. Salaire moyen, c'est un esclave. C'est quoi ? On va poser des chiffres, oui, c'est quoi le salaire moyen ?
Tout dépend de la référence. On va dire entre 1 500 et 2 500 euros, voilà.
Ouais, j'allais dire...
Bah, 2 000 euros.
J'allais dire un peu plus, moi, quand même.
Ouais, salaire moyen, mec. Ouais. 80% des Français, je pense qu'ils sont en dessous de 2 000. Hein. Ouais, ouais, disons 2 000. 2 000.
Ah, non, mais ça doit être ça. Bon, disons que... Ok, le mec, il est à 2 000. Voilà. À 2 000, est-ce qu'il peut vraiment se payer une relation, le mec ? Je te le demande. Est-ce qu'il peut se payer une relation ? Est-ce qu'il peut vraiment avoir un logement décent dans un centre urbain qui propose des activités assez sympas autour de lui, plus se payer des restos et payer des restos à la meuf, plus se payer une chambre d'hôtel de temps en temps, se faire plaisir? Il peut à peine, en fait, il peut à peine mener une vie de célibataire cool, mais il peut pas rentrer en relation. C'est-à-dire qu'il pourrait pas se payer un appart plus grand pour héberger la meuf avec lui.
Est-ce que ça, c'est pas une vision très centrée sur probablement ce que tu vis, qui est l'homme... L'homme provide et accompagné par sa femme. Parce que il y a plein. Enfin, toi, tu parles que d'un salaire, par exemple, mais si tu es en relation avec une fille qui gagne 2000 euros, tu vois, c'est une co-construction ensemble, tu vois. Alors, peut-être que tu n'y crois pas, mais ouais, probablement, ouais. C'est probablement la majorité de la population, en tout cas en France, qui vit comme ça, tu vois. Donc.
Ouais, je comprends. Moi, j'ai jamais vécu comme ça. Donc, je vais pas commencer à expliquer aux esclaves comment faire de l'acrobatie mentale pour vivre dignement. Vous êtes des esclaves, vous vivrez dans l'indignité. C'est une certitude absolue. Donc, vivre avec une femme qui travaille, ça veut dire que ta partenaire, ton épouse, travaille pour qui ? Travaille pour quelqu'un d'autre. C'est indigne. Mon épouse, elle travaille pour moi. Elle travaille à mon bien-être, c'est tout. Elle travaille à faire en sorte que j'ai pas à me faire chier avec la vie. C'est pas moi qui prends des rendez-vous, c'est pas moi qui donne des ordres au personnel de maison, c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. La bouffe, elle est prête sur la table, il y a des sourires qui m'attendent à chaque fois que j'ouvre la porte de sa chambre. C'est comme ça. Bon, j'ai réussi. Mais si t'as pas réussi ça, bah, tente. Ne te satisfais pas d'une vie où tu vas partager les charges avec une nana qui travaille, qui va revenir à la maison déglinguée parce qu'elle aura dépensé toute son énergie et tout son stress là pour un boulot qui rapporte au final... pas grand chose. Les nanas, elles gagnent pas grand chose parce qu'elles aiment pas bosser, qu'elles savent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Et elle va pas t'épauler. En fait, elle te servira à rien. Si ma meuf, je la laissais bosser et que c'est ça qu'elle amenait comme valeur dans la famille, bah, elle amènerait à peu près 5% de ma valeur. Alors que si je la laisse faire son boulot de femme, c'est-à-dire s'occuper de moi et s'occuper des enfants, elle amène une valeur qui est égale à la mienne. Ma femme est super importante dans la famille. Sans elle, il n'y a plus de famille. Alors que si c'était une meuf qui bossait et qui payait la moitié du logement, mais je pourrais la remplacer, enfin, elle servira à rien. Et les mecs qui se contentent de ça, qui ont ce genre de relation, bah, ils s'engagent dans un processus et dans des relations qui les condamnent à vivre des vies d'esclaves. C'est indigne et c'est intolérable.
Comment tu l'as rencontrée, ta femme, toi ?
Une relation.
C'est-à-dire
mon cercle social.
Cercle social, ok. Je sais pas, est-ce que tu... comment ça s'est passé ? Est-ce que tu veux en parler ou c'est trop perso ?
Non, c'est pas trop perso, je l'ai déjà raconté. Mais en gros, c'était l'épouse d'un ex-associé. Ils s'étaient mariés pendant 5 ans, je crois. Et à un moment, ils se sont séparés. Et c'est un type avec qui je m'entendais plus bien. Ça s'est pas très bien passé avec lui. Rien de grave, tu vois. Il m'a pas arnaqué ni rien, mais il bossait pas assez bien. Donc on a arrêté de bosser ensemble. Enfin, sur ma décision, j'ai arrêté de bosser avec lui. Et bref, il a fait de la merde. Quand il s'est séparé de sa meuf, il lui a rien filé et il a laissé un peu en plan. Et elle était dans la merde, tu vois. Elle a toutes ses affaires. Elle avait besoin d'un peu d'argent pour reprendre un appart. Et c'était dans la même ville que moi. Et elle m'a appelé pour. Parce que je suis un mec qu'on appelle quand il y a besoin de service, tu vois, ça arrive souvent. Les gens savent. Là où j'habitais, j'avais une certaine réputation locale et quand il y a besoin, on m'appelle. Et donc, elle m'a appelé. Je dis pas de souci, elle vient à la maison. Elle est venue, elle m'a expliqué la situation. Et avant même qu'elle vienne, je me disais, putain, mais elle est pas mal, cette nana, en fait. Je la connais depuis un certain temps. Il se trouve que c'était la meilleure copine de mon ex-femme aussi. Je la connaissais pour ça. Et c'était l'amante de mon ex-femme. Ils étaient très connectés l'une à l'autre. Donc bref, j'avais plein d'infos sur elle, elle me plaisait, je l'avais jamais envisagée parce que je tape pas dans la nana des potes, j'ai autre chose à foutre, tu vois, j'ai plein de nanas, j'ai pas besoin d'aller créer des embrouilles avec mes potes ou mes ex-associés pour avoir un plan cul. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et effectivement, il y avait un gros match et ça s'est fait comme ça. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle était moins jeune que les nanas que j'envisageais habituellement. Ça faisait quand même 2 ans que je cherchais une épouse. J'étais dans une recherche très active, hein. J'avais un rendez-vous par semaine à peu près. J'utilisais des agences matrimoniales ou des agences d'escort VIP pour rencontrer des meufs avec qui soit je faisais que parler, soit je baisais et après je leur payais un resto et on discutait. Et des meufs très jeunes, tu vois, entre 18 et 24 ans. Mais ça fonctionnait pas. Il n'y avait que des gamines et je me rendais compte qu'il fallait que je fournisse un travail énorme pour éduquer la meuf qui ensuite éduquerait mes enfants. Et j'avais pas ce temps-là parce que je travaillais comme un malade. Et je sortais de DBL où je venais de passer 2 ans à éduquer 2000 mecs. Et j'avais plus l'énergie, en fait. J'étais prêt à éduquer mes enfants, mais pas prêt à éduquer une femme. Et elle, là, était plus âgée. Elle avait la trentaine. Et en fait, elle était déjà éduquée. Et en plus, elle avait une génétique exceptionnelle. Je me suis dit, putain, là, j'ai la certitude que mes enfants auront une bonne génétique parce qu'il y a qu'une gamine de 20 ans qui est bonne. Ou elle est bonne parce qu'elle a 20 ans. Mais tu sais pas comment elle sera à 30 ans. Ça se trouve, elle a une génétique un peu médiocre, et 10 ans plus tard, elle sera déglinguée.
Ouais, sa belle génétique, t'entends quoi? C'est vraiment sa structure ou son visage qui est resté bien? Tu peux développer ce truc?
Tout, elle est très belle déjà, mais elle a un niveau d'athlétisme qui est hallucinant pour son âge.
Ok.
Et en fait, les gens soupçonnent pas son âge, quoi. Elle a l'air beaucoup plus jeune, et elle est très dynamique, et très sportive aussi. Mais elle est, elle est ultra énergique. Elle a une très bonne santé et c'est génétique.
D'origine de l'Est, j'imagine.
Ouais. Je pourrais être qu'avec une femme de l'Est.
Qu'est-ce qui leur plaît chez toi, mis à part le côté argent? Qu'est-ce qui fait que... Enfin, le côté argent, tu me diras, tout est lié, mais... Est-ce qu'il y a des qualités qui lui ont plu, plus que d'autres, hein, chez toi?
Ouais. Pragmatisme, clarté et surtout responsabilité. C'est-à-dire, je suis le mec, tous les jours, levé à 5h30, qui fait le taf. Je fais le taf pour ma famille, en pensant prioritairement à la sécurité et au confort. Rien de plus. Je fais le boulot du mec. C'est-à-dire que tous les jours, je suis occupé, j'ai pas le temps, parce que je bosse, pour assurer la sécurité, le confort de ma famille. Et je fais rien d'autre. Il y a rien d'autre qui m'intéresse. Alors, j'ai l'intelligence pour provider tout ça, de faire des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire, déjà, le sujet de la sécurité m'intéresse. Avec les années, je me suis mis à apprécier ça. Tu vois, je m'entends bien avec mes équipes de sécurité. J'aime bien m'entraîner au combat. J'aime bien m'entraîner au tir. Je suis devenu pote aussi avec plusieurs directeurs d'agences de sécurité. Donc, c'est un univers que je me suis mis à apprécier, naturellement. Parce que c'est des gens bien, les agents de sécurité et les directeurs d'agences de sécurité. Généralement, c'est des gens intéressants et qui ont un vécu assez hallucinant. Donc, c'est des anciens militaires qui ont fait des opérations. C'est des mecs qui connaissent le réel, on va dire, dans ses formes les plus intenses. Et pour le côté pognon, pour générer de la thune afin de... Bah, en fait, faut la payer, la sécurité aussi. Mais pour se payer le confort, il en faut encore plus de thunes. J'ai quelque part l'intelligence et la créativité de faire des trucs qui me plaisent. C'est-à-dire le développement technologique, j'adore ça. J'adore diriger des équipes de développeurs. Je suis pas technicien moi-même, mais... Je suis un peu visionnaire, j'arrive à comprendre comment faire une tech. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que c'est une bonne UX? Une UX, c'est une ergonomie, c'est une expérience utilisateur. J'arrive aussi à comprendre comment faire du marketing sur le business adulte. J'aime ça. J'aime monétiser la sexualité. Ou là, sur ce que je te disais, les jeux d'argent. Putain, j'adore les jeux d'argent. Mais en fait, il y a plein de gens qui adorent les jeux d'argent. C'est une addiction, c'est marrant, quoi. Mais réussir à le monétiser, c'est autre chose. Ou tout le monde adore le sexe, mais monétiser le sexe, c'est autre chose. Bon, ben, j'arrive à le faire.
Je reviens sur un truc parce que moi, je dis pas que l'argent n'a pas d'influence sur les relations, sur ta capacité à attirer des femmes. Parce que tout ça, c'est lié au pouvoir, c'est lié à ce que tu dis. Tu vois, si t'es capable de faire de l'argent, c'est que t'es capable de pro-aider, c'est que t'es capable de discipliner. Tout ça, c'est plus ou moins lié. Mais alors, il y a quand même tout un pan de la population masculine qui sont dans un métier qui rapporte pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont une vie plutôt confortable. Je sais pas, moi, si on prend un avatar, celui qui travaille en banque à Paris, qui a un bon appart, qui a une bonne situation, qui est capable d'aller au resto, qui est capable de tout ça. Par contre, qui est dans une situation qui est pas du tout à l'aise lorsqu'il est en présence de femmes, il n'arrive pas à trouver une copine, il n'arrive pas à rencontrer des filles. Et pourtant, il a l'argent, dans son métier, il est discipliné, il a une certaine forme de pouvoir, il est dans une hiérarchie où il contrôle des mecs. Mais sur le plan relationnel, ça va pas. Qu'est-ce que tu leur dis dans ce cas-là, à ce pan de la population ?
Alors, pas grand-chose parce que j'ai arrêté d'être un gourou. Je fais plus de la prise en charge d'individus, genre « Alors mon gars, t'as pas réussi à devenir un homme ? T'as pas eu un vrai daron qui t'a donné une éducation et qui t'a expliqué quelle était la voie à suivre, qui t'a au moins montré l'exemple pour être ce qu'on appelle un homme complet. Un homme qui est capable de sécuriser sa famille, lui offrir du confort et qui en plus a une forme de charisme, de la carrure, enfin tu vois, un type qui sait se battre, qui sait regarder une femme pour dire les choses qu'il faut ou pour avoir l'attitude qu'il faut pour se faire respecter, se faire désirer. Donc les mecs qui n'ont pas réussi à faire tout ça, j'ai rien à leur dire, c'est plus mon business de leur parler à ces gens-là. Et je l'ai fait pendant des années, mais de manière générale, il faut faire le boulot. Être riche ne suffit pas, ou savoir parler aux femmes ne suffit pas, ou être beau gosse ne suffit pas. Il faut forcément être un individu complet pour pas être vulnérable. La vie, c'est un jeu qui est assez compliqué, surtout pour un homme, et on doit être bon dans tous les domaines, c'est tout. Il faut se casser le cul. C'est très compétitif. Aujourd'hui, t'as un petit pourcentage de la population qui choisit ses partenaires sexuels, les autres, ils prennent ce qu'on leur laisse, c'est la vérité, et encore, ils ont de la chance. Parce que la vérité, c'est que de plus en plus, il y a une grosse partie qui n'a même pas les restes et qui se contente d'aller sur OnlyFans.
C'est vrai.
On en est là, quoi. Ça y est. Et ça ne va faire que partir en intensité. Regardez, l'évolution technologique avec Instagram. Comment ça a changé la société, Instagram ? Eh ben aujourd'hui, tu as une survisibilité des méga bonasses et ça a invisibilisé les meufs un peu moyennes. Mais ça, c'est côté meuf. Côté mec, il se passe quoi ? Il se passe à peu près la même chose. Il y a des mecs qui sont mis en valeur, qui sont surexposés parce qu'ils ont tout réussi. Ils sont beaux gosses, ils sont riches, ils sont connectés, ils ont tout. Et t'as une énorme majorité de la population qui est en train de se tiers-mondiser, qui devient des individus méconnaissables, marrons, des mélanges raciaux. Tu sais pas si en face de toi, t'as un Pakistanais, un Chinois ou un mec d'Europe. Tu sais pas. Des trucs entre les deux, quoi. C'est une masse marron qui n'a pas vraiment de culture, qui n'a pas d'identité, qui n'a rien, qui bouffe du McDo, qui regarde la télé, qui porte les mêmes Nike et qui ne touche pas une meuf, qui ne touche pas une thune, qui ne voyage pas, qui fait ce qu'on lui dit, qui se fait vacciner, qui mène une vie d'esclave. On se dirige vers ça et la population, de manière générale, la masse est soumise, elle adore ça. Et elle y va de manière très enthousiaste. Elle y va même avec la fierté de trouver ça vertueux. C'est-à-dire que la vertu devient une excuse à l'échec. Et c'est ça hein, qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, toute la bien-pensance, c'est quoi ? C'est justifier l'échec par la vertu.
Moi, j'ai une question. Tu parles beaucoup de devenir un homme, de masculinité, de sécuriser son cocon familial, que c'est le rôle du mec. Et je t'avais déjà entendu dire lors de... Je sais plus, je crois que c'était une interview ou quoi... que lors d'un tournage porno avec une actrice qui était très masculine, toi, à l'époque, tu étais moins masculin que maintenant et donc, du coup, ça ne matchait pas pendant le tournage. Et donc, que tu étais potentiellement moins masculin que tu ne l'es maintenant. Comment t'as... Je sais pas si tu te souviens de ça et comment tu fais... Comment t'as pris conscience qu'il fallait que tu sois plus masculin pour qu'il y ait un match et donc, du coup, peut-être que
pour
tu te
polariser.
Rapproches... Ouais, pour polariser, mais... Pour coller justement, est-ce que tu avais cette vision-là déjà très masculiniste, enfin, rôle masculin qui est censé sécuriser sa femme, sa famille, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé en même temps que tu as développé ton côté masculin au plumard, par exemple ?
Ouais, bon. Au début de l'anecdote, j'arrivais pas à remettre et finalement j'ai compris. C'était avec Gina Gerson. C'est une nana qui est très connue dans le porn. Elle était numéro 1 en actrice russe pendant des années. C'est un petit bout de femme, hein. Elle fait 42 kilos. Je vois déjà Jérôme sur, en train de tapoter sur son clavier.
Oui, parce que
anal, gaping, en train de regarder des trucs dégueulasses.
Non, pas du tout.
Il a sorti sa bite. Jérôme, putain, mais calme-toi, quoi.
Mais arrête, je vais être obligé de changer de plan si tu le dis devant tout le monde. Non, c'est pour le mettre à l'écran, pour que les gens puissent le voir.
Ah, mais je vais mettre un plan large, alors. Comme ça, tu peux le mettre.
Ouais. Alors, Gina Gerson est un petit bout de femme qui cache bien son jeu. C'est une tarée très conflictuelle. Hein. Elle s'est déjà battue avec des acteurs porno.
Ah oui.
Pour de vrai, hein. Elle a été en embrouille avec des producteurs. Enfin, elle est spéciale. Bon, et cette nana, si t'as pas un peu de carrure, elle te marche sur la gueule. Vraiment, elle te crache dessus, elle s'en bat les couilles. Elle peut être très, très désagréable. Et la première fois que j'ai rencontré, j'étais pas acteur débutant, mais j'étais débutant dans la production. Et là, j'étais dans le cadre producteur, réalisateur et performeur. Et en tant que producteur, elle m'a pas respecté du tout. J'avais 3 films au compteur en tant que producteur. Donc, elle m'a mis la misère. Franchement, elle m'a pas bien traité du tout. Elle m'a manqué de respect. Et c'était justifié. Pourquoi ? Parce qu'elle, c'était une superstar depuis des années. Et bon, c'est une tarée justifiée, plus ou moins. On n'est pas obligé d'être désagréable avec les gens juste parce qu'ils sont débutants. Mais c'est le game, en fait. Tu vois, je n'en veux pas à elle. Je me suis juste remis en question, moi. Je me suis même pas remis en question. En fait, j'ai juste fait le boulot. Et quand je l'ai recroisé, je sais plus, 3 ans plus tard, et que, entre temps, j'étais devenu numéro 1 acteur français sur Xvideo, que j'avais fait des centaines de vidéos en tant que producteur, et que je m'étais fait connaître en faisant des très jolis films. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, j'étais le mec qui a produit les plus belles productions. J'avais un niveau de production de qualité qui était similaire aussi au porno américain. Donc, des vrais costumes, des vrais décors, des vrais machins, des trucs vraiment bien, quoi. Ben, Game of Porn, par exemple, j'ai fait toute une saison de parodie de Game of Thrones. Mm-hmm. La saison 6 était, ou 8, je crois. La 8 était pourrie. Je me suis dit, vas-y, je vais continuer, je vais faire la saison 9 et je vais rétablir les choses. Donc, j'ai fait un truc pas mal, même plutôt bien, au niveau vraiment des productions américaines, en termes de design et tout ça. Et donc, il y a plein de trucs qui font que j'ai gagné du respect. Et quand elle était revenue dans la ville où j'habitais, elle m'avait contacté pour qu'on tourne ensemble et je l'avais boycotté. Et en fait, même pas. Elle m'avait contacté juste pour qu'on se voie. Parce que elle habitait plus là. Elle habitait à Budapest. Moi, j'étais plus à l'Est. Donc, quand elle est revenue, elle voulait se refaire des contacts locaux parce qu'elle devait rester pour des raisons de visa. Elle devait rester 6 mois. Et elle avait besoin de se faire des contacts locaux parce que c'est une activité très locale, le porn, et tu bosses avec les gens qui sont là. Tu fais pas ça tout seul, un film. Tu vois bien, il faut des acteurs, il faut des équipes de direction et tout. Et là où j'étais, les seules équipes de production, c'était des équipes de production de l'Est qui étaient toutes pétées, qui faisaient à peine les tests de santé. Ils mettaient même pas le budget, ils faisaient le test sanguin, mais ils faisaient pas le test de la microflore. Limite, c'est dangereux de bosser avec eux. En plus de faire des films de merde qui sont pas beaux, tu chopes la chaude pisse, tu vois, en bossant avec ces gens-là. Donc évidemment, elle était pas très chaude de bosser avec ça, surtout à son niveau de succès. Et donc, elle avait repris contact avec moi, qui entre-temps avait grimpé, et avec d'autres filles locales pour faire des scènes amateurs, tu vois, girl-girl, on appelle ça, des filles ensemble. Et quand elle m'avait contacté, j'étais en mode, j'ai pas le temps, quoi. Parce que entre-temps, moi, j'avais plein de contacts locaux de meufs qui valaient pas cher, qui étaient aussi jolies qu'elles et qui étaient beaucoup plus sympas, qui étaient pas arrogantes. Et je l'avais boycott, j'étais en mode, quand j'aurai le temps, je t'appelle. Et attends, je finis. Elle a limite pété un plomb. Elle m'a harcelé, genre, pour qu'on se voie. Et j'avais fini par accepter parce qu'elle m'avait proposé qu'on tourne gratuitement et elle avait besoin d'un acteur. J'étais là, bon, je veux bien te baiser gratos, quoi. Et c'était parti comme ça. Okay. Et au final, ça s'était super bien passé parce que je l'ai reçu à la maison et entre-temps, j'ai changé d'appart. La première fois où elle m'avait vu, elle avait passé 2-3 jours chez moi où elle m'avait traité comme une merde alors que c'était mon invité. Hein.
Ouais.
Elle m'envoyait dehors en pleine nuit, lui acheter du chocolat, enfin des trucs de fou. Et moi, comme un putain de coq, à l'époque, j'étais là à essayer de soigner mon actrice pour qu'elle soit de bonne humeur le jour de la scène. Je me saignais, hein. Je la payais $800 pour la scène à l'époque. Alors que des meufs locales, j'ai payé $200, tu vois, et que je gagnais à l'époque $1200 par mois. Enfin, ouais. C'était dur. Et là, quand elle est revenue me voir, au lieu de vivre dans un appart de merde, je vivais dans l'appart qui appartenait à une ancienne star de pop. Donc, un appart de fou. Super design, 200 mètres carrés, centre-ville. Elle a halluciné. Elle a vu mon appart. Moi, j'étais fringué avec mes trucs Hugo Boss, mais avec des petits liserés en or, je sais pas quoi. Enfin, des trucs de très mauvais goût.
Ouais,
mais qui faisaient genre, j'ai changé, quoi.
Ouais,
je suis plus le même. Ma gueule avait changé. Entre-temps, j'ai eu 2-3 problèmes aussi. J'ai mon équipe de sécurité. Enfin, j'avais vraiment changé dans la vibe. Elle était un peu choquée. On a baisé, c'était cool, et en fait, elle a plus ou moins essayé de devenir ma meuf pendant les mois qui ont suivi, jusqu'à ce que je la dégage, parce qu'elle était à moitié folle, elle était agressive. Elle essaie plus de me dominer de la même façon, mais elle avait toujours un truc complètement flingué. Et puis, je l'ai blacklisté, quoi, j'y parle plus aujourd'hui. Mais sa réaction avant-après est normale, parce que j'avais pas la même position, donc elle réagissait pas de la même façon. Ouais. C'est tout.
Et donc, pour répondre, c'était la question initiale un petit peu, c'était... Qu'est-ce qui a fait, t'as pris conscience qu'il fallait que tu sois plus, que tu prennes un petit peu plus le taureau par les cornes?
Ah bah c'est juste d'être en Russie. C'est-à-dire que les femmes de l'Est.
T'es inexistant si t'es pas
par
dominant.
Leur féminité. Ouais. Mais c'est même pas ça. Non, c'était plus beau que ça. C'est-à-dire que les femmes de l'Est sont hyper féminines et elles ne t'imposent pas une position de masculinité. C'est juste que elles prennent la position de la féminité et elles sont intouchables. Tu peux pas les déplacer. Elles sont trop féminines. Donc toi, en tant que mec, ta part de féminité, elle est plus utile.
Poubelle.
Personne te la demande et surtout pas la nana. Non, c'est pas sollicité, quoi. Et vu qu'elle tient bien sa position, la seule qui te reste, c'est la position du mec. Et vu qu'elle t'inspire au quotidien et qu'elle tient son rôle, elle te soutient dans cette position. Donc c'est pas un coup de pression. Alors quelque part, il y a une forme de pression, mais que tu te mets à toi-même pour être au niveau.
Ouais.
Et pour rendre tout l'amour que tu reçois. Moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai été avec des super partenaires et elles m'ont encouragé, juste par leur attitude, à tenir mon rôle.
Mais alors, toi qui, pendant des années, as essayé de redonner un peu de la masculinité aux hommes, tu vois, à travers notamment DBL, dans ta secte, t'avais vraiment ce truc-là, de vouloir inculquer ces valeurs-là. Qu'est-ce qui a fait que t'as un peu abandonné, entre guillemets? Alors, tu as parlé que tu as repriorisé les choses aussi, que pour toi, le confort de ta famille était plus important qu'essayer d'améliorer la condition de tous les hommes. Mais la raison pour laquelle tu as lâché, alors que c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur?
Un mix. Déjà, je reconnaissais mes propres erreurs. C'est-à-dire que la première année, j'ai vraiment bien géré la communauté. Et la deuxième année, j'ai pas bien fait le boulot. Et en même temps, je réalisais que ma communauté ne valait pas tant que ça. J'avais pas filtré à l'entrée, j'en ai souvent parlé, mais voilà, le prix était pas cher, donc tout le monde pouvait rentrer, et j'avais beaucoup de parasites et de cassos. Les éléments de qualité dans ma communauté, de toute façon, j'étais en contact privé avec eux. Genre, j'étais amené à travailler avec eux, ou à les rencontrer, parce qu'ils venaient aussi s'expatrier en Europe de l'Est. Et les autres, bah, ils ne viendraient jamais, ils faisaient rien de productif, et ils parasitaient, ou ils foutaient le bordel, ou ils étaient inutiles. Et en plus de ça, j'ai fait évoluer DBL en mettant beaucoup l'accent sur la crypto au moment où il y a eu le second bull market, et également en parlant anglais. Et ils n'ont pas suivi. C'est-à-dire, il y a plein de gens pour qui la crypto, c'était trop compliqué, ou qui n'avaient pas de sous pour investir en crypto ou pour jouer avec de la crypto ou pour faire quelque chose, pour être acteur du marché. Et ils ne voulaient pas parler anglais parce que c'était trop dur. Ils voulaient que la communauté soit un divertissement. Ils voulaient du Netflix. Ils voulaient un live par semaine pendant lequel je les divertisse et je les fasse un peu rêver. Moi, je veux pas de ça. Je voulais de l'action. Par exemple, le nouveau réseau que j'ai fait, là, sur OnlyBoss, je fais plus du babysitting. Je fais pas de l'animation. Il y a que des mecs qui bossent, qui sont là pour l'argent. On fait tous la même activité. On fait que parler business. Il y a des nanas qui sont en train de rejoindre aussi des créatrices qui arrivent. Et on est tous sur le même focus. Sur DBL, non, il y avait une illusion. Moi, j'ai cru que j'allais vivre avec une communauté et j'ai réalisé que non, j'allais pas vivre avec eux. Et eux, ils ont cru qu'en m'écoutant, ça allait changer les choses. Non, il faut faire. Et ils voulaient pas faire. Ils voulaient juste écouter.
Mm-hmm. Mais c'est ce qui est étonnant, c'est ce qui est toujours un petit peu le problème, la problématique des formateurs slash coach slash enseignants, c'est de se rendre compte qu'ils ont pas le poids. Enfin, ils ont pas le t'as beau essayer de tout donner, t'as beau essayer de... C'est un peu des combats perdus d'avance, quoi. C'est que même si t'as une classe de 30 personnes en face de toi et que tu vas absolument leur transmettre les bonnes valeurs et qu'ils réussissent, finalement, tu vas pas arriver à convaincre tout le monde. Tu vas pas arriver à transmettre la valeur à tout le monde.
Bah, c'est dur. Il y a plein de gens qui se prennent des formations juste pour vivre l'illusion. C'est-à-dire, ils achètent la formation, le soir, ils vont s'endormir en se disant « Yes, je vais devenir millionnaire. Yes, j'ai acheté un programme de fitness, je vais devenir musclé. » Et le lendemain, bah, ils l'ouvrent pas. C'est aussi simple que ça. Tu dis, mais pourquoi ils n'ont pas réussi, la formation est mauvaise? Non, ils ne l'ont pas ouvert. Quand tu es formateur, tu peux voir dans les analytiques le taux d'ouverture des formations.
Ah ben on le voit, nous.
Et c'est hallucinant. C'est à se taper la tête sur un mur de voir que des gens dépensent des sommes à trois chiffres pour des formations qu'ils n'ouvrent pas. tu peux faire quoi face à ça, quoi? C'est, les gens, en fait, s'achètent du rêve. Bon, ils sont pas tous comme ça, hein. T'as aussi des mecs qui réussissent.
Ouais, mais bien sûr, il y a toujours une petite partie qui réussit, mais en tant que formateur ou que comment on appelle ça, pas coach, mais ce c'est quoi le nom,
ouais,
de
leader.
Ceux qui font les formations en ligne, des
infopreneurs.
Les infopreneurs, voilà. C'est un peu le problème de tous les infopreneurs, c'est qu'ils se rendent compte de ça à un moment donné, et c'est qu'il y a toujours une petite phase de se dire, tiens, comment je pourrais améliorer la pédagogie de mon contenu, des leçons que j'enseigne, pour faire en sorte que ça soit plus 5% qui les appliquent, mais ça soit peut-être 20, 25, 50%, tu vois. Essayer de trouver un modèle différent. Est-ce qu'on peut y inclure de la gamification, ce genre de choses? Est-ce que ça a dû traverser l'esprit aussi quand tu faisais tes DBL, quand tu faisais les lives, c'est que tu devais te dire, je vais essayer de construire quelque chose et le marketer de façon à ce qu'il y ait le plus de gens qui viennent aussi?
Non, non, non. Ça, ce que tu dis, en fait, c'est du marketing. C'est-à-dire, tu vends une formation. Et si tu veux continuer à la vendre ou la vendre encore plus, il faut amener des preuves clients. Il faut dire, hey, ça marche, la preuve, c'est que mes clients ont des résultats. En l'occurrence, DBL n'était pas quelque chose que j'ai fait pour l'argent. J'ai lancé DBL à une période où, de toute façon, j'avais gagné beaucoup d'argent avec les cryptos et j'avais plein d'autres sources de revenus. Même si DBL me rapportait des sous, je ne faisais pas ça pour l'argent. La preuve, c'est que DBL, c'est un abonnement mensuel qui me rapportait à peu près 40 000 $ par mois et je l'ai arrêté moi-même. Tu sais, je suis pas parti avec la caisse ou je sais pas quoi. Les gens, ils payaient chaque mois. C'était pas, ils payaient un abonnement d'un an et puis au bout d'un mois, je me suis cassé, non? C'est au bout de 2 ans, il y a un moment, j'ai fait bon, les mecs, je vais arrêter, j'ai annoncé le truc, puis après, j'ai arrêté. Genre une semaine plus tard. Donc, j'ai renoncé à un revenu récurrent qui tombait tous les mois. Parce que j'étais pas dans une dynamique de faire de l'argent avec des BL. J'avais autre chose comme idée. Je voulais de la puissance. C'était ma quête. Mais, pas à travers l'argent sur DBL, à travers la communauté. Je rêvais d'avoir autour de moi une communauté et j'ai pas abandonné ce rêve. Aujourd'hui, dans ma maison, je suis pas seul. Je ne vis pas juste avec mon épouse. Je vis en communauté. Alors, tous les gens dans la baraque travaillent pour moi. Mais c'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'ai choisis et soit qui me servent, soit qui assurent ma sécurité. Mais je vis en communauté avec eux. C'est pas juste des gens qui font ma bouffe. C'est des gens qui m'aiment profondément. C'est des gens que j'ai protégés à un moment ou qui m'ont protégé à un moment. Enfin, il y a une histoire.
Okay.
Et donc, je suis en communauté, sauf que c'est pas DBL, tu vois, ça a changé de forme. C'est plus réel. C'est pas 2000 personnes, c'est quelques personnes, mais au moins c'est réel.
Je me souviens, t'avais fait une interview, je sais plus si c'était sur ta chaîne ou sa chaîne à lui, avec Mike Dragueur de Paris, il me semble.
Ouais. Mmh. Ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps, l'interview.
Ok. Oui, bah, quand tu m'as contacté, t'as regardé un petit peu tout ce que t'avais fait, hein. Tu te faisais une nostalgie. Et la raison pour laquelle on s'est dit que tiens, on allait t'inviter sur ce podcast-là pour discuter de tout ça. Deux visions opposées qui sont un peu... les deux visions opposées, c'est on va dire celle de Dragueur de Paris qui est donc focalisée sur la drague, les skills vers les femmes.
Application de rencontre, ouais.
Application de rencontre et pas du tout orientée vers faire un max de thunes. Toi qui es plus là-dedans... je sais pas, ça fait peut-être plus d'un an qu'elle a eu lieu cette interview. Qu'est-ce que t'en retiens de tout ça maintenant, en plus que tu l'as regardé il y a pas si longtemps?
De l'interview?
Ouais, de l'interview et des deux pôles opposés, tu vois. Pour le même but qui est finalement de s'émanciper, d'avoir plus de résultats avec les filles.
En gros, pour résumer l'interview, Mike est un dragueur, donc il enseigne la drague, et moi je suis un consommateur de prostituées. Et c'est vrai que j'en parle très librement et j'explique à quel point je trouve le service utile pour un homme, on va dire un homme qui est aisé et qui a pas le temps. Tu gagnes du temps en allant vers la prostitution. Ça prend 40 minutes en fait, parce que dans le taxi tu bosses, puis tu fais ton affaire avec la nana et tu te casses. Et la nana te rappelle pas, donc il y a pas d'échange de messages, il y a pas de perte de temps, il y a pas une nana qui vient mettre en danger ta relation, voilà. Donc je pense toujours la même chose que pendant l'interview. Je pense que quand t'as les moyens, tu te payes des escortes et tu protèges ainsi ton temps et tu protèges ta famille aussi. Parce qu'une escorte, contrairement à l'amante, elle vient pas foutre la merde dans ton foyer familial. L'escorte, elle vient pas taper à la porte en pleine nuit. Genre, mais tu m'avais dit que t'allais larguer ta meuf. Non, 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 non. J'ai mis 200 $ sur la table en rentrant et c'est tout. Ciao. Et ça n'arrive jamais. T'as jamais des clients qui s'enfuient au bout du monde avec leurs prostituées, alors que t'as des mecs qui ont dormi sur la béquille pendant des années, ont été exclusifs malgré eux, tu vois, ils ont été fidèles à leur femme, mais en souffrance, et qui finissent par se barrer avec la secrétaire, qui finissent par se barrer avec une amante ou avec une meuf plus jeune. C'est tout le temps comme ça, quoi. Un homme, un chef de famille, se barre pas avec une pute. Ça n'arrive jamais. Et de manière générale, ce que défend Mike, en fait, c'est pas qu'il faut pas aller aux putes, il est pas anti-pute. Lui, il dit juste que il y a des mecs qui ne savent pas gérer leur relation avec les femmes et qu'il est là pour les aider, tu vois, à faire la prise de contact avec les femmes et après à gérer le début de relation pour pas se faire abuser pour, ou pas se faire ignorer par les femmes, ce qui est pas délirant. Mais en vrai, il y a un cheat code. Le cheat code, c'est juste d'avoir de la valeur. Moi, je continue de focaliser là-dessus. Si t'as de la valeur, bah en fait tu peux, comme je disais au début, Brad Pitt, même en crachant à la gueule d'une femme, il peut coucher avec elle dans la demi-heure. Et sa phrase d'accroche, ça peut être un molar. Et ça marcherait. C'est dingue, hein. Enfin, là je pousse l'exemple ultra loin.
Ouais.
Mais en vrai, il pourrait se permettre, tu vois. La meuf, elle est de dos, il jette un chewing-gum dessus, quoi, et elle se retourne. Elle est énervée au moment de se retourner, mais dès qu'elle comprend que c'est Brad Pitt, elle est plus énervée du tout. Elle est en mode « oui, tout ce que tu veux ». Bah, c'est comme ça, c'est juste le niveau de valeur.
Et qu'est-ce que tu cherches alors quand tu... Parce qu'on est d'accord, quand tu vas aux putes, c'est uniquement sexuel, tu cherches pas la connexion, tu cherches pas la relation. Et donc, tu trouves pas que c'est différent des... Je sais pas, par exemple, des hommes qui partent avec leur secrétaire ou qui trouvent des amantes extra-conjugales, parce que eux, ils recherchent... C'est pas forcément que du cul, tu vois, c'est... La relation, l'expérience, le flirt, ouais. L'excitation du, tu vois, d'un nouveau truc. Donc, c'est quand même différent.
Ouais. Bah, c'est... Tu sais, la relation, c'est un sacrifice.
Ouais.
Alors, ça paraît dingue que moi, je parle de ça, mais construire une famille, ça veut dire sacrifier quelque chose. Alors, certes, il y a le frisson de l'émotion avec l'amante dont tu tombes un peu amoureux. Ouais, ben, un homme qui est un chef de famille, qui a des responsabilités...
Pas le temps.
Certes, il se prive de ça. Ouais. Non, mais c'est une trahison. C'est-à-dire que les moments d'émotion, les moments de relation, toute la communication, elle doit se faire avec ton épouse en tant que chef de famille. C'est elle qui doit recevoir ton attention. C'est elle qui mérite ton attention parce qu'en dernière instance, c'est elle qui se casse le cul tous les jours, toute la journée pour s'occuper de ta maison pour que ça soit un havre de paix, qui se casse le cul pour offrir de l'amour, sa santé et de l'éducation à tes enfants. C'est elle qui mérite de recevoir ton attention. Donc, quand tu vas te vider les couilles dans une teup, eh ben, t'as au moins la décence de faire que te vider les couilles. Si pendant les 40 minutes que tu passes avec une professionnelle, eh bien, t'es émotionnellement ouvert, que t'es souriant avec la nana, que t'arrives à connecter avec elle, que t'as honnêtement un bon échange humain avec la nana, bon, bah, super. Super, ne va pas plus loin. Tu vois, commence pas à échanger des messages après, à garder le contact et tout le bordel, à essayer de la voir en dehors du boulot gratuitement. Non, juste tu passes le meilleur moment possible avec elle. La durée, c'est pas la limite d'émotion, c'est le temps. En fait, en cadrant les choses de manière pragmatique, et nous on est des hommes, tu vois, on a besoin de barrières là, physiques. Eh ben, c'est le temps. Donc, tu passes 40 minutes avec une meuf, aussi loin que tu puisses aller dans l'émotion, 40 minutes, c'est 40 minutes. Hein. Quand c'est fini, ciao, bye bye, tu rentres à la maison comme un homme, tu te brosses les dents avant d'embrasser ta femme, et puis tu retournes bosser. Et c'est tout.
Est-ce que tu penses que tu serais capable on enlève le côté « j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité », etc. Est-ce que tu penses que tu serais capable d'aller voir n'importe quelle fille que tu croises, que ce soit dans la rue, dans un bar, dans un lounge d'hôtel, peu importe, pour aller l'aborder et pour essayer de démarrer une interaction avec elle?
Absolument pas. Il me faut une raison pour interagir avec les gens, que ça soit une fille ou un mec.
Elle te plaît énormément.
Et alors, elle me plaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai un besoin. En a-t-elle un? Non, je suis une personne intelligente, empathique et qui comprend les dynamiques humaines. Ce qui fait que je vais pas aller vers quelqu'un qui a a priori de la valeur, que ça soit une fille ou une célébrité, ou quelqu'un de riche, ou je sais pas quoi. Enfin, quelqu'un qui expose de la valeur pour aller gratter un truc débile. Tu vois un mec avec une jolie bagnole, tu fais quoi? Tu vas le voir, hey, « Eh, salut, je peux faire un tour ?» Mais va te faire enculer. Tu vois une meuf qui est bonne, « Eh, salut, je peux te baiser ?» Tout le monde veut la baiser. Elle veut pas offrir ça gratuitement. Elle va le monétiser d'une manière ou d'une autre. Soit par l'argent, soit par l'attention, soit par l'engagement d'un homme de valeur, voilà. quelqu'un de connu, hey, on peut faire une photo, c'est-à-dire quoi, je peux utiliser ta célébrité, ton succès pour m'attirer un petit peu d'attention sur moi, je peux gratter un petit peu de ta notoriété, mais t'es une merde, fais pas ça, putain. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ne le ferai jamais. Quand j'interagis avec des gens que je ne connais pas, je m'assure que le contexte s'y prête, ou je m'assure d'avoir été introduit. Et ça marche toujours. Il y a des contextes dans lesquels tu as une position, les gens savent qui t'es, pourquoi t'es là, et quand tu les abordes, ils savent pourquoi tu les abordes. Du coup, ils sont pas en résistance, ils sont pas confus, ils comprennent. Et tu fais ce qu'il y a à faire. Exemple, t'es dans un club de boxe, il y a la session des sparring, et tous les rounds, vous tournez, vous changez de partenaire. T'as jamais rencontré le mec suivant, mais il y a le sifflet qui sonne et tu vas sur le mec suivant pour faire le sparring. T'arrives, il te fait un grand sourire, vous tapez gant contre gant et vous commencez à vous taper sur la gueule parce qu'il y a un contexte, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire et c'est pas grave qu'on se connaisse pas. L'interaction, aussi intime soit-elle, parce que c'est intime de se mettre des coups de poing dans la gueule, et ben elle se passe sans souci. Tu connais pas la pute, mais t'as pris rendez-vous avant et c'est son boulot, elle fait ça. Ok, il y a un contexte, tu poses les sous, tu la baises, il y a pas de malaise. C'est une réunion, un groupe autour d'un sujet, un club de lecture ou quoi, et vous êtes autour d'un bouquin et tu abordes quelqu'un au sujet du truc, tu vois, ben, il n'y a pas de malaise. En fait, il y a un contexte. On va pas aborder des gens de valeur pour les gratter sans qu'ils savent pourquoi quitter. Sinon, en fait, tout ce qu'ils voient, c'est un parasite. Je ne suis pas un parasite. Je ne veux pas être dans la position de parasite et je ne crois pas qu'être en position de parasite amène à quoi que ce soit dans la vie. Autour de moi, j'ai beaucoup de mecs qui ont du succès, qui ont eu tout, qui ont l'argent, les femmes et la santé, ces gens-là ne sont jamais passés par la case parasite. Je n'y suis jamais passé. Et ceux qui croient qu'être artiste de rue, c'est un parasite, pas du tout. Hein. J'étais une putain de star dans la rue. La vidéo du spectacle, elle est dispo sur YouTube. Tu tapes Jean-Marie Corda, spectacle de rue. Tu verras, j'ai des centaines de gens autour de moi et j'avais de la valeur. Je proposais un vrai spectacle. C'était pas de la mendicité. Allez voir ce que c'est, vous comprendrez. Mais la position de parasite n'amène que de la défiance, de la résistance. C'est une perte de temps pour tout le monde. C'est de la pollution, en fait. C'est de la pollution relationnelle.
Ok. Toi qui a fait pas mal de...
Attends, et je vais répondre à toi. Je vais juste finir, je vais répondre précisément. Des centaines, des milliers de fois dans ma vie, j'ai vu une jolie nana qui me plaisait beaucoup. Et tu sais ce que j'ai fait à chaque fois? Je me suis retenu. Je suis pas allé l'emmerder avec mon désir libidineux. C'est pas parce qu'elle est jolie, qu'elle me plaît, que je devrais aller lui casser les couilles.
Si tu penses que tu es une opportunité pour elle et qu'en fait tu lui fais, si tu flippes dans l'inverse en te disant que t'as une certaine valeur, t'as de l'argent, tu sais ce que tu vaux, t'as confiance, bref, t'as vraiment de quoi apporter et que en n'y allant pas finalement, tu lui fais louper une opportunité à elle.
Ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus de représenter une opportunité pour elle, j'ai les moyens de lui faire comprendre. Donc imaginons. Je suis là, je marche dans la rue, je suis entre mon point A et mon point B, et qu'en plus, j'ai du temps, ok? C'est ma petite balade. Ok, j'ai fini de bosser, et je vis dans un endroit sympa, et je vais marcher le soir dans mon quartier, faire une petite balade. Ok, on va donner ce contexte-là, un contexte parfait pour faire une rencontre. Sur le trottoir, en face de moi, il y a une nana qui est tout à fait mon genre, que j'adorerais baiser. T'es bon avec ce contexte? Ça te va?
Oui, très bien.
Ok, donc, je ne l'aborde pas, cette nana. Pourquoi? Parce que je me dis, déjà, je suis pas sûr d'avoir une valeur qui l'intéresse. Je la connais pas. Elle est peut-être en relation. Elle a peut-être déjà un mec qui s'occupe bien d'elle. Et objectivement, j'ai quoi à lui offrir à part la traiter comme une prostituée? Moi, je suis déjà marié. Je veux pas lui parler. Tout ce qui m'intéresserait, c'est de lui dire bonjour. Est-ce que je peux prendre votre numéro? Je vous appellerai d'ici 10 jours quand j'aurai de la disponibilité. Je vous offrirai 200 ou 300 dollars pour vous sodomiser. Et on fera ça dans un hôtel 5 étoiles. C'est tout ce qui m'intéresse, ok? C'est la seule proposition de valeur que j'ai envie de recevoir d'elle, c'est qu'elle me propose un rendez-vous selon les heures qui m'arrangent, sous conditions tarifaires, et qu'on fasse ce que je veux, c'est-à-dire du sexe anal. C'est tout ce qui m'intéresse. Si je lui propose autre chose, je serai un hypocrite. Genre, je veux pas lui proposer de lui parler, je veux pas lui proposer de l'emmener au resto, je veux pas lui proposer une balade, rien de tout ça ne m'intéresse, parce que tout ça, je réserve à mon épouse. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'irais proposer à cette pauvre inconnue une proposition qui, dans les codes de société, est une insulte? Je veux dire, dans toutes les sociétés, quand tu vas voir une nana oui. pour lui proposer de l'argent, pour l'emmener dans un hôtel à la date de ton choix, c'est une insulte.
Peut-être Oussama Hamar.
Pourquoi est-ce que
j'aurais fait ça? Je sais pas si t'as vu. Il propose de coucher avant de dater. Peut-être que lui, il le ferait.
Ouais, après, si on peut reprendre le contexte et le ramener à l'époque où tu étais célibataire, par exemple. T'aurais plus l'objection de ta
femme. Ok, d'accord. Faisons ça. C'est intelligent. Ok, on fait sauter cette objection. Je suis un célibataire et je cherche une épouse. Ok? Donc là, j'ai une vraie proposition de valeur à proposer à la nana. Et en plus, j'ai quelque chose d'assez honnête et de digne à lui proposer. C'est-à-dire, ou à lui demander plutôt, excuse-moi, à lui demander. C'est-à-dire, je lui demande son attention, je lui demande potentiellement d'être une partenaire et je lui propose moi aussi de la prendre sous ma protection et de lui offrir du confort. Donc, très digne tout ça.
Exactement, on est vraiment dans ce schéma-là qu'on préconise, mais qu'on essaie de défendre. Tu vois, sur ce cas-là, tu as tout résumé.
Ok. Imaginons ce cas-là. Je suis un célibataire qui cherche sincèrement à trouver une partenaire et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Si je trouve une bonne partenaire, je lui ferai des enfants et je passerai ma vie avec elle. Ok. Donc, disons que je suis vraiment dispo, open et activement en recherche pour ça. Et je croise une nana qui est spectaculairement jolie et qui, dans le regard, a quelque chose qui m'inspire, une forme de gentillesse ou une connexion chimique. Je me dis, putain, elle, il y a un truc, coup de foudre. Ok. Disons que ça se passe comme ça. Je la croise là dans la rue. Eh ben, pareil, ça peut sembler fou, les gens vont se taper la tête sur le mur. A priori, je ne l'aborde pas, quoi. De ma vie, j'ai jamais abordé comme ça. Pourquoi? Parce que je partirais du principe que je n'aurais pas les preuves pour justifier de tout ce que j'ai à offrir et qu'en plus, mon ressenti, basé sur mon expérience, est probablement foireux. Mon ressenti, comme quoi c'est potentiellement une partenaire intéressante, viendra du fait que sexuellement, il y a une compatibilité, qu'elle me plaît, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une compatibilité émotionnelle et intellectuelle. Je ne connais rien de cette femme. Statistiquement, il y a très peu de chances qu'on soit compatible pour construire des projets en commun. Parce que avoir une partenaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. C'est construire des projets ensemble. Donc, je sais pas. J'ai pas vraiment de data sur elle. Tout ce que j'ai, c'est son apparence physique. Ouais, elle est bonne. D'accord. Ça veut pas dire grand chose. Je suis plus difficile que ça. J'ai de la valeur. Donc, une femme bonne ne me suffit pas. Et elle, comment est-ce que je lui prouve que je suis un homme de valeur. Et comment je sais aussi qu'elle est intéressée? Elle est peut-être pas. Elle est peut-être déjà en couple, comme je disais. Donc, il y a plein de facteurs qui me paraissent trop bancales, trop d'informations qui manquent. Et à côté de ça, j'ai, par des agences matrimoniales ou par des agences d'escorte VIP ou par mes réseaux sociaux, de quoi avoir assez de rencontres planifiées, genre une ou deux par semaine, pour qu'il y ait des nanas qui viennent en étant déjà filtré. J'ai pas besoin de compter sur le hasard des rencontres dans la rue.
C'est la magie.
Pour aller collecter des data manuellement comme ça.
Je trouve ça assez marrant et, légèrement paradoxal.
Attends, je vais répondre à la magie.
Ouais, vas-y.
Non, mais je troll un peu quand je dis
la
ça.
La magie de Jérôme.
la magie de Jérôme.
La magie, j'y crois. Et la magie arrive quand tu fournis un travail énorme. Quand tu D'accord. fournis le travail nécessaire pour créer des situations parfaites et que t'es dans un cadre de maîtrise, la magie arrive. Mais là, tu parles de hasard. C'est pas la magie. La magie arrive pas juste quand tu marches dans la rue. La magie, c'est quand t'as fait 15 ans de spectacle de rue et que tu vas faire un spectacle génial. C'est quand t'as fait plein de vidéos et que tu vas, à un moment, faire une vidéo absolument génialissime. La magie, c'est ça, quoi. C'est quand t'as forgé des épées toute ta vie et il y a un moment, il y a une épée, tu vas faire un truc de magique en la forgeant. Bon, la magie arrive pas comme ça de manière random. Moi, j'y crois pas du tout. Et au final, ma méthode a marché. Je suis avec une femme exceptionnelle. Je suis très, très content d'être avec elle.
J'allais ajouter que c'était un peu paradoxal parce que tu parles d'incertitude, tu parles de je ne sais pas si elle va être en couple, si je ne sais pas si on est compatible, mais finalement, toi, tu es un businessman, tu as plusieurs business et c'est carrément de l'incertitude dans tout ce que tu fais. Tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si les traders que tu suis vont te trader les bons trucs sur... Tu vois, et il y a toute cette incertitude qui finalement est assez paradoxale, le discours que tu... Est-ce que tu vois le lien ou tu trouves que je suis à côté de la plaque?
Pas du tout, c'est très intelligent. Je vais en parler un tout petit peu. J'en parlais avec mon assistant principal il y a pas longtemps. Je travaillais avec un mec qui est spécialisé en stabilisation. Donc lui, son boulot, c'est que mon business n'explose pas. Mmh. Et psychologiquement, il est paranoïaque, il voit toujours les problèmes avant qu'ils arrivent, il imagine même les problèmes qu'on n'a pas. Voilà. Et c'est très bien que j'en mette comme ça parce que moi, je suis un type qui est focalisé de manière obsessive sur la croissance. Et la croissance, c'est quoi dans le business? C'est générer de l'argent. Et comment tu fais de la croissance? Tu fais de la conquête. La conquête, c'est quoi? C'est comme dans un jeu de stratégie, il y a des zones d'ombre, tu sais pas ce qu'il y a dessous. Et pour y aller, bah, t'es obligé de prendre le risque d'y aller, physiquement. Et tandis que t'y vas, les zones d'ombre s'éclaircissent et tu comprends les ressources qu'il y a sur ces terrains. Et la croissance en business, donc aller conquérir des nouvelles audiences, faire de la nouvelle thune et tout ça, ça n'est que ça. Ça n'est que prendre le risque de partir à l'aveugle tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est que tu pars le mieux préparé possible, comme un soldat qui a tout son équipement, et que tu fais une collecte de data sur les zones que tu veux aller conquérir avant de prendre le risque d'y aller et de partir à la guerre. Et c'est un peu pareil avec les femmes, c'est-à-dire que là, quand t'es dans la rue, bah, je suis désolé, je suis pas en tenue de combat, j'ai pas collecté mes infos, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je vais sur un rendez-vous où je fais ma balade, et en fait, je suis en compagnie de moi-même. Et c'est un moment précieux. Il n'y a pas beaucoup de moments où je suis tout seul et je peux un petit peu laisser mon cerveau respirer. Et au final, ça a de la valeur. Je ne vais pas le gâcher comme ça sur un truc random. Okay. Je ne vais pas non plus fermer la porte à un truc qui se passe. Imaginons, la nana que je croise, elle est vraiment très jolie. Je la regarde. Si elle aussi, elle me regarde, je lui souris. Si elle aussi, elle me sourit, bon, bah, je peux lui dire bonjour. Tu vois, je vais juste être humain, quoi. Je vais au moins tenter le regard. Et dans le regard, je vais envoyer quelque chose de positif. Et s'il y a une réaction positive, je peux un peu surenchérir, mais sans pousser. Tu vois, je vais pas mettre une énergie particulière. Okay.
C'est tout. On se rejoint. T'avais quelque chose.
Ouais, alors, j'avais quelque chose à dire, mais c'est revenir à un sujet dont on parlait il y a 15 minutes. C'était par rapport à ta femme. Est-ce que tu penses que l'exclusivité que tu donnes à ta femme, l'exclusivité d'attention que tu lui apportes, c'est entre autres ce qui fait qu'elle tolère que t'ailles ou qu'elle accepte, hein, je sais pas où t'en es avec ça, avec elle, que t'ailles voir des prostituées. Est-ce que tu penses que c'est vraiment que le côté sécurité, un mec qui en veut, qui est ambitieux, ce côté-là que tu lui apportes qui fait qu'elle tolère, ou est-ce que tu penses aussi qu'il y a vraiment cette exclusivité d'attention que tu mets point d'honneur à lui accorder à elle et pas à une autre?
La seule raison pour laquelle elle tolère ce truc, c'est la qualité de ce que j'apporte, c'est-à-dire la valeur au quotidien. C'est tout. C'est pas une histoire de deal moral ou je ne sais quoi. Non, 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 c'est très pragmatique et ça marche comme ça avec toutes les nanas. Okay. Quand t'apportes beaucoup de valeur, bah les nanas, elles sont prêtes à payer plus cher pour cette valeur. Et là, le prix est élevé. Les nanas détestent toutes d'avoir un mec qui va aux putes, et elle déteste encore plus qu'il soit ouvert sur la question, qu'il ne s'en cache pas. Et en plus, elles peuvent pas faire marche arrière, parce qu'une fois qu'elles le savent, ça les rendrait folles que le mec le cache, parce que elles s'imagineraient pire encore. Et là, si elle accepte, c'est d'abord parce qu'elle a pas le choix. Quand elle m'a rencontré, elle savait qui j'étais. Ouais. Je m'en suis pas caché. Je suis un mec qui est ouvert sur la question. Je veux dire, j'ai écrit un bouquin sur la prostitution. J'étais acteur porno pendant 15 ans. Aujourd'hui, je bosse sur OnlyFans. Je m'en suis jamais caché, quoi. C'est pas possible aujourd'hui. Et je cherchais pas à le faire. Je verrais ça comme une soumission de planquer une de mes activités,
ouais, bien sûr,
devant des membres de ma famille, quoi. Je fais pas ça. Donc, elle a pas eu le choix. Elle a accepté la relation comme ça. Et au fil de la relation, ça l'a mis en douleur comme tous les partenaires que j'ai eus. Et c'est toujours la même histoire, hein. Toutes mes épouses, au début, ouais, je suis pas jaloux, je m'en fous, c'est pas grave. Et au bout d'un an, en fait, ça les rend folles. Ça leur fait vraiment péter un plomb. Et arrive ce moment où je leur dis, mais je t'avais prévenu dès le début, tu te souviens? Oui. Et je suis tellement habitué que ma troisième épouse, dès le premier jour où je l'ai rencontrée, je lui ai dit, voici le challenge auquel tu feras face avec moi. À un moment, tu auras du mal avec le fait que j'aille voir d'autres femmes et tu réclameras plus d'attention de ma part, en fait. Tu te sentiras négligé. Et elle, c'est une femme qui a ultra confiance en elle, qui est très belle, qui est tout le temps très sollicitée. Et je lui disais, la difficulté, c'est qu'à un moment, tu vas me courir après pour que je te baise et pour que je te donne de l'attention et que j'aurai pas le temps. Et tu vas vraiment avoir des difficultés avec ça. Et elle en riait presque. Un an plus tard, c'est ce qui se passait. Et bon, ce que je fais, c'est des compromis. C'est-à-dire que je lui offre plus d'attention que ce que je lui donnerais naturellement. Je fais cet effort,
ouais, voilà, tu compenses,
pour m'investir en elle et qu'elle, elle donne aux enfants et à la famille. Et c'est normal. Je leur ai dit, la famille, c'est un compromis. C'est pas chacun qui fait ce qu'il veut, comme dans l'utopie moderniste, tu vois, où tout le monde est égoïste, hédoniste et ne pense qu'à sa gueule. Non, c'est chacun fait des efforts. Elle fait des efforts aussi. Il y a des trucs que je la laisse pas faire parce qu'elle mettrait en danger sa sécurité. Okay. Et dans une position où je peux pas me permettre qu'elle risque sa sécurité. Elle marche pas seule. Est toujours accompagnée d'un membre de l'équipe de sécurité, par exemple. Alors qu'elle adore être toute seule. Et la maison, elle préférait être seule. Non, on vit en communauté. pour des raisons de sécurité, d'efficacité. Il y a plein de trucs comme ça où moi, j'impose des compromis. Et le compromis que je m'impose à moi, c'est lui donner de l'attention, même quand j'ai pas le temps et pas d'énergie.
Ok.
Moi, je voulais revenir sur un petit truc. Enfin, je veux dire, c'est dans la continuité. T'as fait pas mal de porno. À la fin, t'étais bien meilleur qu'au début. C'est le fait d'avoir enchaîné les expériences. Mais comme dans la vie, comme dans le business, dans tout ce que, dans n'importe quoi. Hein. Est-ce que t'es d'accord pour dire que plus tu fais, plus t'es au contact avec quelque chose qui te donne un peu d'inconfort, dans lequel tu as de la difficulté, plus tu vas gagner en expérience, plus tu vas être à l'aise.
Alors. C'est gentil de me faire un compliment sur l'évolution de mes techniques et ma performance au fur et à mesure des années. Ça m'a très rarement été fait. Souvent, je suis interviewé par des gens qui sont complètement en dehors du milieu du porn. Donc, ils n'ont pas une approche technique.
On l'est.
J'ai jamais eu un intervieweur qui me dit « Eh ben, écoute... »
On l'est, mais disons...
Ouais, mais toi, t'es technique quand même.
Ouais, je suis technique, ouais.
Ok. Mais un mec du métier pourrait me dire... Putain, à la fin de ta carrière, t'étais meilleur pour faire gaper les filles, tu tenais tes positions de manière plus propre, t'étais plus dynamique. Y a des façons comme ça de juger un performeur. T'as vraiment regardé mes films pour voir l'évolution de ma performance, ma gestion des positions, mon intensité, tout ça?
Pas vraiment. Non. En fait, je l'insinuais d'un point de vue cohérence logique, tu vois. Et alors, si on prend pas le côté technique de la réalisation, mentalement, toi, tu te sentais plus en confiance, plus à l'aise et plus confiant envers tes propres skills après avoir fait 200 tournages plutôt qu'après le premier.
Bah, c'est dans tous les métiers. Un type qui fait le même métier depuis 15 ans. Ah oui, effectivement, monsieur, au bout de 15 ans, vous êtes plus en confiance que votre premier jour. Oui, évidemment, surtout dans un métier comme ça. Bah, concrètement, mon premier tournage, j'ai pas eu d'érection. J'ai galéré pendant 3 heures à m'astiquer dans les chiottes. Pendant que l'autre acteur il était en train de tringler la nana, on était deux acteurs sur une meuf. Et mon dernier tournage, je sais plus ce que c'était, mais c'était sans doute une facilité déconcertante, c'était juste une baisse de plus. On s'habitue.
Mais c'est exactement ça que je veux dire. Et est-ce que tu trouverais incohérent, tu vois, c'est le fait d'être au contact régulièrement avec une activité, avec une difficulté, qui fait que tu t'améliores, tu prends de l'expérience. Est-ce que tu trouverais ça incohérent que quelqu'un qui... n'est pas du tout confiance avec les femmes parce qu'il n'en côtoie pas assez, se mettre régulièrement dans des situations où il va en côtoyer, que ça soit en essayant d'en approcher, soit en allant les aborder quand il les voit, quand il y en a une qui lui plaît, soit en essayant de nouer le contact, essayer de rentrer en contact avec des femmes régulièrement pour gagner en expérience, pour gagner en confiance et pour essayer de se faire diminuer la pression.
Si, non mais évidemment... Tu peux continuer comme ça de balancer des banalités. Qu'est-ce que je te dis? Je suis obligé d'acquiescer. Mais concrètement, si il commence à avoir une aisance, mais qu'il a pas de valeur, ok, il sera à l'aise pour être le copain. En fait, il sera à l'aise pour être, friendzoné par toutes ces nanas. Donc, avec beaucoup d'aisance, il va aller se foutre dans la merde. Et voilà.
Parce qu'on entend aussi le... Enfin, moi, je l'ai souvent entendu par l'intermédiaire de personnes que je connais ou de coachs drague, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient riches, qui avaient énormément de problèmes, de difficultés à trouver des filles, à attirer des filles, à garder des filles. Tu vois, donc tu parlais de statut, de parler de te construire en tant qu'homme fort, etc. Mais c'est vrai que sur certains hommes, la problématique persiste. Bien que le statut soit là, bien que... le gars a de l'argent, etc.
Il faut tout.
Tu vois.
Il faut être un homme complet, c'est-à-dire il faut du pognon, il faut aussi des social skills. Les social skills, c'est quoi? C'est comprendre qui on a autour de toi, de soi, excuse-moi, et pas se faire scammer par des séducteurs qui vont te faire investir dans des trucs foireux, ou pas se faire scammer par des meufs qui vont te balader et qui vont te friendzoner ou qui vont baiser avec toi, mais pour récupérer beaucoup plus de valeur que ce qu'elles en offrent. Et il faut aussi la santé. En fait, il faut tout. Excuse-moi, tu peux pas dans la vie juste te balader avec de l'argent, tu vas être une cible.
Comment toi tu as appris tes compétences sociales? Bon, j'imagine, hein, via le spectacle de rue, etc. Mais ça...
Tu pratiques la vie tout simplement, c'est-à-dire, je sais pas, moi, tu travailles en équipe, donc tu bosses avec des gens, tu donnes des ordres, t'en reçois, tu participes à des activités sportives où il y a des groupes. Moi j'ai fait du spectacle, donc je faisais de la gestion de foule. Tu te bats en fait dans tous les domaines de la vie, c'est tout. Et la pratique se fait. T'étais obligé d'interagir avec des humains quand t'essayes de grimper en compétences et en puissance.
Après t'enchaîneras, mais j'ai une toute petite question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Désolé, je fais des ponts en arrière. Tu parlais que ta femme était capable de voir instantanément ta valeur, etc. Et que c'était pour ça aussi qu'elle acceptait tout ça. Est-ce que tu penses quand même que c'est une qualité des femmes de l'Est, justement, de percevoir la valeur des hommes très rapidement ? Et je parle de ça, même si, par exemple, admettons, c'est une femme de l'Est qui rencontre un mec qui n'est pas forcément riche à l'heure actuelle, elle va être quand même capable de voir le potentiel, de voir l'ambition de ce mec, alors que je trouve... Alors peut-être pas, et c'est pas une généralité que je vais faire, mais peut-être que les Françaises seront beaucoup moins capables de percevoir cette valeur-là et de se projeter dans une, se projeter plus loin que la rencontre, tu vois, instantanée. Elles vont jamais pouvoir aller plus loin que ça parce qu'elles sont pas capables d'avoir ce radar à déceler de la valeur chez les hommes qui se présentent.
Ah ouais, non mais complètement.
Parce que tu trouves que c'est une qualité qui est.
En fait, si ouais. tu compares une nana qui est issue d'une civilisation qui est encore en bonne santé. Comme la Russie, avec une nana issue d'une civilisation complètement dégénérée comme l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis, évidemment, le bon sens est du côté des femmes civilisées et des femmes féminines. Une femme de l'Est, elle va te demander de manière très pragmatique quel est ton intérêt ? Tu fais quoi de ta journée ? Sur quoi tu focus ? Et si la réponse, c'est « je suis focus sur mes responsabilités afin de provider », mais je ne sais pas comment on dit en français, de fournir de la sécurité et du confort.
Ouais, apporter. Ouais. Fournir, ouais.
Donc, d'apporter de la sécurité et du confort à ma famille, tu marques des points. Et après, elle peut demander, OK, et t'en es où là-dedans? T'as quoi comme boulot? T'as quoi comme compétence? T'as quoi comme connexion? T'as quoi comme projet? Tu lui dis, d'une manière pragmatique, elle va trouver ça raisonnable ou pas. Si tu lui dis que t'as des ambitions démesurées, mais que là, en ce moment, tu gagnes 500 balles par mois, elle va se dire, bon, le mec, il plane. Ou si tu lui dis que t'as des ambitions, mais que ce que tu veux, c'est faire de la musique, elle va aussi trouver que tu planes. Par contre, si tu gagnes déjà des sous, et que t'as un plan qui est cohérent, qui est compréhensible, que t'as les ressources nécessaires et la motivation pour mettre ce plan en exécution, bon, ça fait sens. C'est très pragmatique, une femme de l'Est. Très très pragmatique, et donc elle va valider un homme qui va se comporter de manière décente, un gentleman, donc un type qui va être poli, qui va tout payer et qui va gérer sa position, donc en fait qui va être responsable, tandis qu'une femme dégénérée, bon bah vous connaissez quoi, la meuf, elle va valider quoi? Elle va valider des signalements de vertu, genre le mec qui dit qu'il est tolérant, qu'il est inclusif, qu'il est je sais pas quoi, qui se sent féminin, toutes ces merdes, et que ah il veut faire de la musique ou il a des rêves, des machins. Donc la meuf de l'Ouest, elle va être intéressée par tout ça, et à la fin de la rencontre, elle va vouloir payer la moitié de l'addition parce que c'est une femme forte et indépendante. Bon, ben je laisse tout ça aux esclaves, quoi. S'ils veulent discuter avec ce genre de femelle, moi, ça ne m'intéresse pas.
Et ton expérience et avis sur les Asiatiques, est-ce qu'il est si différent des femmes de l'Est ?
Ça n'a rien à voir. Ah oui, ah oui. Les Asiatiques, derrière leur regard bridé, n'ont pas d'âme. Sauf rares exceptions. Y a certains peuples asiatiques qui ont une âme, qui sont plus ou moins accessibles. Je dirais Japon, Corée du Sud, Philippines. Et Japon et Corée du Sud, c'est très difficilement accessible. C'est-à-dire, toi, tu peux, en faisant énormément d'efforts, essayer d'assimiler un peu leur culture, mais eux, instinctivement, n'en ont rien à foutre de toi. Et leur culture est très différente de la nôtre. Philippines, c'est plus accessible. C'est la population que je préfère. La population philippine est très, très sympathique. Ils parlent bien anglais. Et c'est des gens adorables.
Et sur les valeurs traditionnelles, ça se recoupe ?
Les Asiatiques, de manière générale, sont plus tradis que les Européens de l'Ouest. Mais leurs traditions ne sont pas les nôtres. Ils ont d'autres traditions. Ils ont d'autres religions.
Sur les relations, sur masculin, féminin, celui qui apporte, hein, celui qui est le ciment de la famille... Sur ces valeurs-là.
Alors, les traditions à l'ancienne se recoupent sur la valeur famille, en fait. Ce dont tu parles, c'est ça. La valeur famille, c'est quoi ? C'est le mec, c'est un provider. La femme, elle s'occupe des enfants. Bon, c'est un peu la base, quoi, des traditions un peu partout. Et effectivement, ils ont pas complètement foutu au chiottes leurs traditions en Asie, clairement. Mais c'est pas pour ça que ça nous est si accessible que ça. C'est moins pire d'être avec une Asiatique qu'avec une Européenne de l'Ouest, parce que même si c'est pas nos traditions, elle a ses traditions, et que les valeurs de la famille sont également présentes dans ses traditions à elle, mais autant être avec une Européenne de l'Est, qui partage nos traditions ancestrales, et qui a la valeur famille au centre de ses traditions. Et on peut facilement s'inclure dedans, quoi, parce qu'on les comprend.
Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses ?
Non, là j'ai pas d'autres questions.
On a fait un bon tour, Jean-Marie, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, on a fait un bon tour.
Ouais, super, ça me fera un truc à écouter, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des podcasts intéressants, donc généralement, ce que je fais, je m'écoute moi-même. Alors, ça a peut-être semblé odieusement narcissique. Mais bordel, est-ce parce que j'ai une jolie voix, ou est-ce parce que je dis des choses intéressantes? C'est quand même plus intéressant, les podcasts où je parle, que les autres. Moi, bon, j'écoute 2-3 autres mecs aussi. Mais, petit compliment pour vous, il faut aussi savoir poser des questions, créer une bonne ambiance, comme vous l'avez fait. Donc, j'ai de la gratitude. Je vous remercie, les mecs.
Tu sais ce que je rêve, moi? Moi, je rêverais, parce que c'est vrai qu'on les fait en distanciel, parce qu'on n'a pas le choix, mais je rêverais de t'avoir à la table à côté de nous, juste ici en face, là, pour pouvoir interagir en direct live.
Donc, où tu es, Jean-Marie, dis-nous.
Qu'on vient de te rejoindre avec les micros et la caméra.
Non, tu remarqueras qu'il n'y a jamais personne à mes côtés. Je ne suis pas quelqu'un qui rencontre en réel. Je vis selon des principes de sécurité. Et si on se rencontrait en réel, ça arrivera peut-être un jour. Ouais, on ferait un podcast peut-être. Mais, non, honnêtement, si on se rencontrait en réel, ça serait pour faire un entraînement de boxe. Si t'as le niveau, on le filme. Si t'as pas le niveau, on le filme pas et je ferai de la pédagogie. Et c'est cool dans les deux cas. Mais pour un podcast, il n'y a pas besoin que je sois là. Alors, c'est un peu plus confortable, évidemment, hein, quand t'as le mec en face, t'as l'énergie et tout. Mais on s'en sort bien avec la technologie.
Des news, un dernier mot là sur quelque chose que tu prépares, un projet ou qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour 2023?
Ah, je vais être un peu généreux et faire ma pub, hein, les mecs. Je vais vous abreuver de toutes les opportunités que j'offre. Alors, il y a deux choses. C'est soit vous voulez travailler avec des femmes, c'est pas facile, mais bon, c'est marrant, c'est OnlyFans. Je vous forme à bosser là-dessus. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le métier du sexe. Donc j'ai 2-3 trucs à partager. Et vraiment, le réseau dont je suis le leader est le plus gros réseau francophone sur ce business. Et si les jeux d'argent vous intéressent ou le trading automatisé vous intéresse, il n'y a pas besoin de savoir trader, hein. C'est-à-dire tout se fait tout seul. Bah pareil, j'ai des choses à proposer. Et pour ça, peut-être que tu mettras mon frog en description et je te proposerai un frog aussi. C'est quoi un frog? C'est une carte de visite. Ça ressemble un petit peu à un Linktree. T'as tous tes liens dessus, mais c'est joli. Il y a des images sur tes liens. Je t'enverrai ça là sur WhatsApp. Tu verras gratuitement de deux sur Frog. Tu peux te faire ta genre de carte de visite online et tu mets ça avec ton podcast. Comme ça, il y a tous tes liens en dessous, mais ils sont vraiment bien présentés. Ça donne envie de cliquer. Et ça se fait très vite.
Parfait. Merci Jean-Marie d'avoir participé au podcast.
Je t'en prie.
Ouais, merci Jean-Marie. Moi, c'était la première fois que, enfin, je t'avais jamais, j'avais jamais eu l'occasion de te rencontrer, en tout cas de t'avoir en discussion en live. Donc, écoute, agréablement surpris et c'était vraiment cool.
On est des collègues apparemment.
J'avais l'habitude de regarder tes conneries sur YouTube, tu vois, mais ça me faisait bien marrer. Donc, de parler dans un truc plus sérieux, c'est vraiment chouette.
Avec plaisir. Ouais. Et c'est toujours cool d'avoir des collègues, des mecs qui ont testé la webcam et qui se rendent compte que c'est pas le rêve. C'est très difficile de faire de la webcam quand on est un homme.
Ouf, ouais.
Top, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous savez comment ça se passe. Vous vous abonnez, vous suivez, vous commentez, vous envoyez des messages si vous avez envie de les envoyer. Il y a une barre de commentaires si vous les écoutez sur YouTube. Exprimez-vous, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis si vous les écoutez sur les applications de podcast, notamment Spotify, parce qu'on diffuse la vidéo aussi sur Spotify, laissez des notes, des évaluations, et encore mieux, partagez cet épisode à quelqu'un dans votre entourage. Si vous êtes un mec, qu'il y a des choses qui vous sont semblées intéressantes à réfléchir et peut-être à changer d'opinion ou quoi que ce soit, envoyez le podcast à un de vos potes,
à votre copine. Envoyez le podcast à votre meuf et regardez sa gueule, ça va lui plaire. Il y a des propos, ça va l'inspirer.
Certainement. Parfait.
Ben, merci Jean-Marie, merci Jérôme.
Merci Raphaël, merci Jean-Marie. Reste avec nous 30 secondes et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut, bisous. Ciao.